I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur Europe 1 de 9h à 9h30 pour l'heure des pros et jusqu'à 10h30 comme tous les jours sur CNews. Le sport amateur est un laboratoire. Il est un laboratoire parce qu'il accueille des jeunes gens. Le sport annonce le monde de demain. Le sport amateur et notamment le football font l'objet aujourd'hui de demandes nouvelles. Des hommes veulent cacher leurs cuisses, leurs genoux, ils réclament la possibilité d'évoluer en collant. Des femmes souhaiteraient garder le voile pendant les rencontres et elles le dissimulent sous un casque. Ces signes reflètent l'appartenance à une communauté. Ces demandes illustrent une volonté de se conformer au code de la religion musulmane, tel en tout cas que certains les envisagent. La Fédération française de football est vigilante, elle interdit ces signes sur le terrain aux grandes dames de certaines voix. Une journaliste, Nassira El Moadem, qui travaille notamment à France Inter, a tweeté mardi que la France était un pays de racistes dégénérés. Il n'y a pas d'autre mot, la honte, a-t-elle conclu. Ces demandes identitaires, communautaires, religieuses préfigurent la société à venir. Un affrontement est annoncé entre deux cultures, entre deux mondes, entre des Français, faut-il le rappeler. Madame El Moadem est née en France, mais elle juge son pays rempli de dégénérés racistes, quand ce pays entend simplement prolonger son histoire millénaire. Comment éviter l'affrontement ? Comment ces Français, aujourd'hui côte à côte, ne seront-ils pas un jour face à face ? Comme feu Gérard Collomb le prédit un jour. Voilà une question essentielle que beaucoup en France ne veulent pas entendre. Il est 9h, Chana Lousteau.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Sciences Po a accepté d'organiser un débat au sein de l'établissement avec des militants pro-palestiniens. Il aura lieu dans un peu plus d'une heure. Certaines conditions ont été posées, comme l'interdiction de banderoles et de drapeaux et un temps limité de parole. Mais selon la journaliste et essayiste Noémie Aliwa, le fait que ce débat ait lieu, c'est déjà une victoire pour les militants.
Déjà, dans l'organisation de ce town hall, dans le fait que ce débat existe, dans le fait qu'il puisse avoir lieu, ils ont déjà gagné. Et ce bras de fer, il est déjà, si vous voulez, c'est déjà eux qui l'emportent avant même que cet événement ait eu lieu.
Emmanuel Macron va recevoir les syndicats agricoles aujourd'hui. L'occasion pour le président de la République de faire un point sur les mesures mises en place après la crise du début d'année. Beaucoup d'agriculteurs ne voient pas d'amélioration dans leur quotidien. Et Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, a été très clair. S'il y a un double discours, les agriculteurs redescendront dans la rue. Et puis si le Hamas se soucie vraiment des Palestiniens, il doit accepter l'accord. Ce sont les mots du secrétaire d'État américain Anthony Blinken depuis le port israélien d'Ashdod. Je rappelle qu'Israël a proposé une trêve de 40 jours ainsi que l'échange d'otages contre des prisonniers palestiniens. La réponse du Hamas devrait être imminente. En attendant, on écoute Anthony Blinken.
Si le Hamas prétend réellement se préoccuper du peuple palestinien et veut voir un allègement immédiat de ses souffrances, il acceptera l'accord. S'il ne le fait pas, je pense que c'est une preuve de plus qu'il n'a pas la moindre considération.
Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal.
Merci beaucoup Chana. Ce matin, Sabrina Medjeber est avec nous. Vous la connaissez, elle est essayiste et sociologue. Olivier Dartigol, Philippe Bilger, Joachim Le Floch, Imad et Gauthier Lebret sont avec nous. C'est à la fois, c'est pas l'essentiel sans doute de l'actualité du jour, mais je trouve ça très révélateur le tweet de Nassira El Moadem, qui je connais d'ailleurs puisqu'elle est passée par Feu iTélé. Travailler avec elle. Et je trouve intéressant son tweet qu'elle a écrit après la décision de la Fédération française de football. Et on va le revoir, ce tweet, parce que j'y vois, mais je peux me tromper, j'y vois une défiance sur notre culture, la culture française, hein, je veux dire, son histoire. On peut le revoir peut-être le tweet, Marine. Voyons-le. Pays de racistes dégénérés, il n'y a pas d'autre mot, la honte. J'y vois, disons-le aussi, et là encore je peux me tromper, une haine contre la culture de la France, contre son histoire millénaire, contre ses pratiques, contre ses mœurs. Et j'y vois aussi une volonté de changer les choses, de vouloir changer les choses. Ben nous, en France, on ne joue pas avec un voile au football. Ben nous, en France, on ne se couvre pas les genoux et les cuisses. Et Philippe Diallo, qui est le président de la Fédération française de football, est droit dans ses bottes sur ces sujets-là. Et c'est lui qui fait appliquer la laïcité. Et c'est lui, d'une certaine manière, indirectement, que Mme Moadem traite de raciste dégénéré. C'est lui, d'une certaine manière. Philippe Diallo. Philippe Diallo, donc, qui a une histoire aussi personnelle et particulière là-dessus. Donc on en est là aujourd'hui, et c'est hier, sur le plateau d'ailleurs de Jean-Marc Morandini, que la polémique a surgi. Je vous propose d'écouter ce que disait Julien Odoul, précisément chez Jean-Marc hier matin.
Je demande à la patronne de Radio France, Madame Sybille Veil, de la suspendre, parce que cette dame est payée avec l'argent des Français. Ouais. Elle est sur le service public de l'audiovisuel, elle est journaliste sur France Inter, elle est payée chaque année par l'argent des Français. C'est intolérable qu'elle traite notre pays, notre peuple, de raciste. Voilà. Donc si elle n'est pas, pas contente, elle se casse.
C'est intéressant. D'abord, elle ne peut pas se casser puisqu'elle est, elle est française, Nassira. Mais oui, mais ça montre l'affrontement des communautés possibles. Je ne dis pas qu'il viendra.
Oui.
À la limite, moi, je n'en veux pas, Nassira El Moadem. C'est l'enfant des années 90. Oui. C'est-à-dire que comme on a raté l'intégration, l'assimilation, ben on en est là.
Ah, exactement.
Et c'est pas elle que je vise. C'est depuis 40 ans. Elle est le produit de 40 ans.
Elle est le produit de 40 ans. Non, pardon, Philippe, elle est le produit de 40 ans. Elle est absolument française. Mais vous savez, on parle souvent de conflit de civilisation dans ce pays. Mais non, c'est un conflit d'identité. Ces gens-là ne se sentent pas français. Preuve en est, il n'y a aucune gratitude vernaculaire sur tout ce que la France a offert à cette madame El Moadem. Je parle de l'éducation, je parle de la santé, je parle de la laïcité, je parle de la liberté, je parle de toutes nos valeurs. Je pense que dans un pays musulman où les droits élémentaires sont beaucoup moindres, eh bien, elle n'aurait jamais eu la chance qu'elle a aujourd'hui de s'exprimer et de pouvoir même insulter notre pays comme elle le fait là.
Notre pays qui est le sien, je le répète.
Oui, mais justement non, cher Pascal, il y a des Français, pardon, d'origine maghrébine, mais comme à l'inverse d'ailleurs, qui se battent pour nos libertés, pour préserver notre identité et nos valeurs. Et à l'inverse, vous avez effectivement une génération qui a été biberonnée par le décolonialisme, la revanche de l'histoire de l'Algérie sur la France, les offensives de tous ces particularismes identitaires que l'on voit se manifester à l'école comme au sport, par exemple, dont vous parlez souvent. Et cette génération, eh bien, elle a trouvé un terreau, elle a trouvé celui de la laïcité, parce que la laïcité, c'est principalement ce qui oppose le politique du religieux. Ces gens-là veulent absolument, ils sont dans une optique humique, c'est-à-dire de la communauté de l'Ouma, et la laïcité, c'est évidemment l'obstacle à combattre. Quant à ces mots-là, racistes dégénérés, déjà c'est une injure publique, je ne comprends pas que ce ne soit pas tombé sous le coup de la loi. Et je terminerai par dire à Madame Moadem que si elle n'est pas contente de vivre en France, pays de racistes dégénérés, eh bien elle retournera dans un pays qui lui offrira toutes les libertés qu'elle veut et qu'elle ne considérera pas comme étant un pays raciste.
Alors le paradoxe, c'est que les Français qui sont sur cette ligne-là, quand ils vont au Maroc, quand ils vont en Tunisie, ne sont pas acceptés.
Absolument.
Parce que ils ne les reconnaissent pas du tout, parce qu'ils ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Ça, c'est un sujet qui n'est jamais traité.
Absolument.
Mais quand tu vas au Maroc, quand tu vas en Tunisie, les musulmans là-bas ne sont pas du tout sur la même ligne qu'en France.
Absolument.
Loin de là.
Parce que l'État n'est pas faible là-bas, il n'a pas cédé sur la totalité des principes comme en France.
Exactement.
Vous avez parlé d'ingratitude, je pense que le mot est fondamental. Je parlerai pour ma part aussi de malhonnêteté intellectuelle crasse. Bah, pardonnez-moi, mais la France est un des pays les moins racistes au monde. Vous avez des baromètres de la Commission européenne qui montrent que sur tous les peuples européens, on est un des peuples avec les préjugés racistes les plus faibles. On a un taux de mariage mixte extrêmement
élevé. L'essentiel pour moi, et je trouve qu'elle est représentative de certains, c'est la haine oui. contre notre modèle. C'est mais ça c'est... que je vois.
Je le vois très bien. Mais
c'est l'interprétation mais... que j'en fais.
C'est vrai. Je le vois très bien. Mais
donc je peux me tromper là encore.
Quand le politique a cédé, qu'on a 500 000 arrivées d'immigrés par an, on peut se demander si les conditions de l'assimilation sont encore réunies.
On n'est même pas on n'est même pas obligé d'aller jusqu'à la haine. De toute manière, c'est le problème est clair. Des gens qui sont français mais qui ne se sentent pas français face à d'autres qui sont authentiquement français avec les valeurs que ça implique. Mais j'y verrais aussi, moi, sur le plan médiatique, une répudiation de toute déontologie. C'est tout de même extraordinaire qu'une femme qui est sur France Inter, qui a un rôle qui est payé par la subvention publique, ose tenir de tels propos et qu'on ne réagisse pas au niveau de sa hiérarchie.
Ben si, on réagit. Alors écoutons Gilles-William Golnadel qui était avec nous hier, et après je donne la parole à Olivier d'Artigol.
Madame Moadem, elle ne représente pas l'ensemble non plus des gens originaires de ces pays-là. Elle insulte la France et les Français. Elle est comptable de cette déclaration raciste. Et je suis curieux de savoir quelle va par exemple être la réaction de France Inter. Est-ce qu'elle va avoir la même sévérité que le service public par rapport à M. Akili ou la même indulgence par rapport à M. Meurice? Moi, j'ai tendance à penser malheureusement que ça sera plutôt vers Meurice et la bienveillance parce que chez ces gens-là, quelqu'un qui déteste la France ne peut pas être tout à fait mauvais. Voilà ce que je pense.
Moi, je trouve que c'est très révélateur de la société d'aujourd'hui.
J'ai deux réflexions. D'abord, sur votre édito, je pense que ce qui se passe dans le sport amateur est un thermomètre à suivre. Parce que ça peut sembler être un signal faible, mais pour les éducateurs sportifs à l'échelle du foot dans le village ou du rugby, il y a des choses qui sont en train de se passer indéniablement. Dont acte, je l'avais contesté un jour sur un plateau, mais j'ai eu des retours concernant mon propre territoire. Deuxième chose, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire elle a été une enfant et aujourd'hui c'est une jeune adulte de France. C'est-à-dire sur le côté, bon, mais qu'elle aille ailleurs, je pense que ça n'est pas une. C'est notre société qui, sur la dernière période, a cultivé au sein de certains jeunes issus de l'immigration ce que nous exposons ici comme une véritable haine de la France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aujourd'hui, au sein des citoyens français de confession musulmane, est-ce que ce discours-là est en très grande progression, notamment sur le plan générationnel ou pas. Je pense qu'il se passe quelque chose dans la jeune génération, mais je pense que les adultes, dans leur très grande majorité, sont plutôt, d'après ce que je ressens, sur le respect de ce que leur a apporté notre pays,
Olivier,
sur des valeurs, etc. Je sens plutôt ça.
Olivier,
ce qui met un peu, désolé, de nuance par rapport à l'idée de véritablement, ça y est, l'affrontement est en place.
Non, mais
je ne
Olivier,
le crois pas.
Il n'y a pas de statistiques là-dessus. Je peux juste te dire qu'il y a une grande part de Français issus de l'immigration qui en ont marre de ces stéréotypes-là, qui en ont marre de ces gens.
Et qui les subissent.
Absolument, subissent, qui en permanence attaquent notre pays, sont dans la vindicte contre notre pays, qui considèrent que la laïcité, tous nos principes, nos valeurs sont à combattre, qui sont dans une pensée décoloniale, qui vivent dans le passé alors qu'eux-mêmes n'ont pas colonisation.
Absolument. Ils combattent des principes républicains.
Ils combattent des principes du futur contre nos valeurs. Donc,
Éric Boroghini, qui est un des membres de la Fédération française de football, je rappelle qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, on ne se cache pas les genoux ni les cuisses.
Non. Parce que, voilà. Et d'ailleurs, au Maroc, en
Tunisie. Faut bien comprendre l'instrumentalisation.
Ils combattent des principes républicains qui sont émancipateurs pour eux-mêmes, c'est ça?
Non,
ils se retournent contre eux.
Il faut bien comprendre ce qui se cache derrière cette volonté-là. C'est d'attaquer un modèle. Voilà. Oui. Parce que je le rappelle, au Maroc, en Tunisie, on ne se cache pas les genoux.
Il y avait eu les hijabeuses l'an dernier. C'était la même logique.
Bien sûr.
Je vous propose d'écouter Éric Boroghini qui donne des exemples. Et c'est pour ça que la Fédération, il y a ce que vous appelez des signes faibles, c'est des signes très forts. Pardonnez-moi, ça fait 15 ans que j'en parle dans le football. Mais vous ne verrez pas un papier dans l'équipe. Hein. Vous ne verrez pas un papier là-dessus. Hein. Jamais. Donc écoutez ce que dit Éric Boroghini.
Ce type d'excuse est très fréquent. Nous y sommes habitués dans le football amateur. Les excuses médicales, les dérogations médicales, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une vigilance particulière est demandée et la Commission fédérale médicale a rappelé que les masques faciaux, les casques de protection pour des raisons médicales, répondent à des critères bien précis. Et ce n'est pas dans n'importe quelle condition qu'on peut porter ce genre d'équipement.
On a pu voir sur les sites de certains districts des jeunes filles, toutes petites filles, avec le voile, sur le site officiel du district. Le règlement est très clair. L'arbitre doit évidemment demander à la joueuse ou au joueur de retirer l'équipement qui n'est pas conforme à la loi 4 des lois du jeu. S'il ne le fait pas, eh bien, la rencontre ne peut pas avoir lieu. Et derrière, les instances disciplinaires prennent le relais.
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pression sur les arbitres qui racontent « mais depuis 15 ans !» Et allez voir qui joue dans au football aujourd'hui et surtout qui ne joue plus. Ouais. Tout ça, c'est une réalité. C'est, je veux dire, simplement, elle est très peu dite.
Mais en fait, on voit
Philippe
bien, en un mot, on voit la chute libre d'un universel qui rassemblait au bénéfice de particularismes qui, vous l'avez très bien dit, qui clivent et qui font qu'on s'affronte. C'est dramatique.
Mais pourquoi ils clivent ? Parce que nous sommes faibles.
Mais, oui, mais parce qu'il est très difficile de lutter contre une insinuation, un courant de cette nature.
C'était très facile dans les années 80. Mais à partir du moment où on a mis en place que l'assimilation n'était plus le modèle et l'intégration n'était plus le modèle dans les années 80 et qu'il fallait être tolérant avec les uns les autres et que chacun pouvait venir comme il était selon la loi américaine, bah, t'as dit à tous ces gens-là, soyez comme...
C'est le principe de la géométrie variable. Voilà, c'est le péché originel de Jospin au moment de l'affaire du foulard de Creil. Il faut des principes qui valent pour tous sur l'ensemble du territoire national. Et là, le président de la FFF a très bien réagi.
Il est ferme là-dessus. Alors, au niveau professionnel, il n'y a pas de souci, parce que tout est sous contrôle et tout est sous les caméras. Et Deschamps, alors là, il n'a aucun souci avec ça.
Pour l'équipe de France.
Pour l'équipe de France, et puis au niveau professionnel, il n'y a pas de souci. Parce que
il n'y a pas des clubs où il y a des problèmes.
Il y a des clubs, je ne les citerai pas, mais où tout est halal en France, dans des clubs de football, oui, des clubs de Ligue 1. Tout est halal. C'est une demande. Bon, c'est très intéressant.
D'ailleurs. Pour le jour des fiertés, par exemple, l'an dernier, certains footballeurs avaient
refusé... L'affaire Matisse.
Juste pour nuancer. Maillot, bon. Avec la différence avec les pays du Maghreb.
Gauthier Lebret.
La première joueuse voilée lors du dernier mondial de coupe du monde de foot féminin, c'était une joueuse marocaine. C'était une première et c'était il y a quelques mois, c'était il y a un an.
Et Nassira El Mohadem a tweeté « Pays de racistes dégénérés, je maintiens 100% de ces termes. Je suis la cible régulière de raids racistes, islamophobes, de menaces de mort et de viol. » Bon, ici en novembre 2003, ces mots vous donnent la nausée, c'est normal. Ce qu'il faut dire à Mme El Mohadem, c'est que tous les gens aujourd'hui qui prennent la parole sont les cibles de régulières, morts, de racisme, etc. Oui, oui. Je l'ai été, vous l'avez peut-être été, nous l'avons été, tout le monde l'a été. Donc cette victimisation, moi j'en parle jamais, mais évidemment j'ai été sous protection à un moment, etc. Voilà, on est tous logés à la même enseigne. Et c'est d'ailleurs très regrettable. C'est très regrettable. Ouais. C'est évidemment très regrettable. Mais chacun est ciblé par les communautés qui ne sont pas d'accord avec ceux qui prennent la parole. Mais laissons cela. En revanche, autre sujet. Ah oui, je voulais vous parler quand même de la séquence De Niro. Parce que hier soir, heureusement d'ailleurs, nous avons mis... Moi, je l'ai passé hier soir. Nous l'avons passé hier soir. Mais effectivement, nous avons mis un doute sur cette séquence. Bien nous a pris de mettre un doute, puisque c'est une séquence qui a été largement partagée. Et on le voit très énervé, Robert De Niro, face à un groupe de personnes laissant penser que la scène avait été prise dans une université américaine. Et en fait, elle a été tournée sur un plateau de tournage le 27 avril. C'est une vidéo qui date du 27 avril dernier. Il montre Robert De Niro et Jesse Plemons sur le plateau du tournage de Zero Day à New York. Cette vidéo provient de ce tournage et n'a aucun rapport avec les manifestations pro-palestiniennes dans la ville. Robert De Niro a été filmé en pleine crise émotionnelle sur le plateau de tournage de sa prochaine série Netflix. L'acteur a crié de colère contre une personne ou un groupe de personnes invisibles qui l'avaient manifestement mis en colère. La colère de De Niro semblait être dirigée contre les membres du public qui regardaient le tournage en plein air. Donc ce n'est pas un film, c'est la réalité, a crié l'acteur avant d'ajouter « Laissez-les faire leur travail. Restez là, offrez votre soutien, c'est très bien, mais restez derrière les barricades, etc. etc. » Donc, l'instrumentalisation qui était faite est suivie.
Je
le découvre.
Bon, donc,
vous paraissez quoi ?
Non, mais vous paraissez surpris de ce que je disais. Donc, le père de Matisse, Christophe Marchais, a pris la parole hier. Il demande juste pour son fils dans une interview accordée à France 3 avant-hier mardi. Et je vous propose de voir et d'écouter effectivement le sujet de Dounia Tengour.
C'est le témoignage d'un père brisé et en colère.
On a tous été un petit gamin joyeux et heureux. Il aimait tout le monde.
Christophe Marché, le père de Mathis, prend la parole pour rendre hommage à son fils. Il réclame une justice des plus fermes tout en mettant en garde sur une quelconque récupération.
Je ne veux pas que ça monte au créneau parce que l'agresseur, c'était un Afghan, quoi, comme on l'entend depuis deux jours. C'est surtout... alors oui, je veux que la justice soit faite parce que c'est surtout pour moi le meurtrier de mon fils. Il me paraît logique qu'il y ait justice. Et pour lui et pour sa mère.
Le père de famille interpelle les parents sur les fréquentations de leurs enfants.
Il faut pister les gamins, quoi. Je suis désolé. Il faut savoir où ils sont, à quel moment où ils y sont. Il y a des applis maintenant pour ça. Il faut s'en servir. Et puis la première fréquentation qui craint un peu, faut pas hésiter à couper les ponts de toutes les manières possibles.
À l'approche de la marche blanche prévue samedi prochain, Christophe Marché en appelle au calme et précise qu'il s'agira d'une marche organisée par la famille et encadrée par les forces de l'ordre.
Marche blanche qui sera donc organisée ce samedi. Et puis le jeune Mathis, c'est un fan du Paris Saint-Germain, grand fan du PSG. Il était le même, et notamment d'Mbappé. Il se trouve qu'il était né le même jour que Kylian Mbappé. Donc, je ne sais pas si il est possible qu'Mbappé, apprenne cette information, ou est cette information, mais je sais que c'était son fan absolu.
On ne peut que s'incliner, je pense, devant le témoignage de ce père de famille. Maintenant, le fait qu'on condamne la récupération, est-ce que c'est ça la priorité qu'on voit ce genre de drame qui survient à une fréquence de plus en plus forte sur le territoire de France ? Et je pense que aucune fille de France ne devrait avoir à subir ce que Mathis a subi. Et il y a quand même des symptômes qu'il convient de traiter, parce qu'on... Sinon, ce genre de situation va se reproduire. Et notamment, le père de famille dit qu'on ne peut pas s'intéresser à la vague migratoire. Mais je suis désolé, mais on a quand même des études, par exemple en Allemagne, qui montrent que les Afghans dans les affaires d'homicide sont 15 fois plus mis en cause que les personnes de nationalité allemande. Or, combien d'Afghans ont fait venir sur le sol de France ces 6 dernières années? On en a fait venir 100 000. Donc au bout d'un moment, je pense que certaines personnes sont quand même comptables d'un bilan en la matière et devront un jour rendre des comptes.
Le témoignage du père est très digne et émouvant, mais on oublie aussi de rappeler qu'il a la lucidité de dire que son fils a eu de mauvaises fréquentations et qu'à partir de là, d'une certaine manière, il a risqué des dérives. Deuxième élément, vous avez totalement raison, il y en a par-dessus la tête, même émanant d'un père qui a subi une tragédie, de cet argument de récupération, il est tout à fait normal que face à une telle tragédie, les politiques s'en emparent. Ça me paraît une évidence.
Oui, après, le père a le droit de dire tout ce qu'il veut.
Ah, oui, le père ne nous interdit pas de penser au-delà de la tragédie.
Il y a les victimes, il y a les politiques et les intellectuels qui doivent s'interroger aux causes profondes.
Vous savez que tous nos débats, et c'est vrai pour nous, mais c'est vrai sans doute pour d'autres chaînes, mais peut-être plus pour nous, sont regardés de près par l'ARCOM. Bon. Les chiffres que vous venez de dire, moi, je ne les ai pas vérifiés.
Moi, je les ai vérifiés avant de venir.
J'entends bien. Mais bon, je tiens à dire que notre rédaction, CNews, ne les a pas vérifiés. Alors évidemment, je ne peux pas vérifier tout ce que vous allez dire. Par définition, je ne sais pas ce que vous allez dire. Mais ce sont des chiffres que vous avez cités. Et effectivement, je tiens à le préciser.
Je les ai repris de Marc Vanguard, qui fait un travail de veille sur les réseaux sociaux très important.
C'est entendu, mais c'est...
Il est donné des ministères à l'intérieur.
C'est important.
Et européens.
Il faudrait en fait aujourd'hui, et c'est un peu compliqué, à chaque fois qu'on prend la parole, citer sa source. Bien vous avez cité ce compte, que je suis également, vous pouvez redire son nom d'ailleurs.
Marc Vanguard. Les chiffres officiels allemands, c'est pas...
Voilà, qui fait un travail extrêmement intéressant d'ailleurs, et sur lesquels...
Vous avez raison, c'est des chiffres qui crispent, qui révèlent parfois des risques.
Mais quand même, il fut un temps où quand un drame surgissait, la parole des familles était une parole d'or, on ne l'a... commentez pas en disant « mais ». Il y avait les marches blanches et après, deux, trois jours après, il y avait le débat public et médiatique qui prenait la suite. Mais ce temps-là, on ne l'a plus depuis bien longtemps d'ailleurs.
Mais parce que malheureusement, tous les jours, On a des drames pareils.
Parce que le temps de la violence accélère.
Après, le rôle du politique, c'est de trouver des solutions pour que ça ne se reproduise pas.
Exactement. Oui, rôle. Chacun a un grand rôle.
Ça, c'est le rôle du premier familial.
Non, mais on va pas. Écoutez, on va pas. Moi, je vais vous poser une. Alors, Olivier.
Oui, Pascal.
Est-ce que vous pouvez répondre par une. Par oui ou par non à la question que je peux vous poser.
Quand vous me faites ça, c'est jamais un bon souvenir pour moi.
Pourquoi?
Mais allons-y.
Bon. Est-ce que vous êtes pour les statistiques ethniques dans ce pays? Oui ou non?
Je suis pour qu'il y ait un observatoire de la criminalité. Mais je vous réponds.
Oui, oui.
Alors non.
D'accord.
Et je suis pour qu'on retrouve l'observatoire de la criminalité dont le thermomètre a été cassé et qui nous donnait.
Et pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait des statistiques ethniques?
Parce que pour moi, c'est justement le retour par l'universel, que l'idée que D'accord. je me fais de la France est une.
Est Donc un vous voulez pas savoir s'il y a plus d'Afghans qui.
Je vous réponds. Et attention, il peut y avoir des statistiques concernant les pays d'origine. Du mouvement migratoire, ça oui.
Bah, ça on a déjà.
Forcément,
ça
oui.
Alors vous l'avez.
Bon,
vous l'avez.
Mais moi, je vous assure. Non,
je vous dis pas ça pour que vous.
Il y a deux
volets ou pas.
Je vous répète.
Est-ce qu'on a le droit encore d'être défavorable?
Mais vous avez parfaitement le droit. Mais vous avez surtout parfaitement le droit de vouloir que ça continue.
Ah, vous voyez. Mais c'est là où c'est retors.
Non, je ne dis pas retors. Je pense
que je ne veux absolument pas que ça continue.
Moi, je vous dis que
vous pensez que je veux que ça continue.
Non.
Vous pensez que je souhaite que les gens continuent à se faire planter avec les couteaux.
Non,
je ne le veux pas. Et non, je ne le veux pas.
À partir du moment où tout ce qu'on a fait depuis 40 ans ne marche pas, on a le droit de poser la question
est-ce
qu'on peut changer.
Bien sûr.
Voilà. Excusez-moi.
Mais je ne vous ai pas dit le contraire.
Et ceux qui ne veulent pas changer ce que j'appelle le logiciel, ceux qui ne veulent pas, je les tiens au bout d'un moment.
Effectivement, mais la solution ne vient pas par les statistiques ethniques.
Non,
mais
il y en a plusieurs. Mais il y en a plusieurs. Et moi, je peux vous en citer 3 ou 4 qui peuvent changer les choses. Je vous l'ai déjà dit. Plus aucune régularisation sur le sol français, ça change des choses. Plus aucun appel d'air envoyé à l'extérieur, ça change des choses sur l'immigration. Je vous l'ai dit. À partir du moment où vous ne voulez pas, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc je peux vous tenir responsable. Mais en revanche, il est 9h... Je vous le dis, c'est mon sentiment. En revanche, il est 9h24. Vous savez, c'est Sartre qui disait, je crois, je tiens pour responsable Voltaire et je ne sais qui, parce qu'ils n'ont pas dit un mot sur la calasse.
L'esprit voltairien dans notre pays aujourd'hui.
Mais non, mais c'est une célèbre phrase, je crois qu'il avait dit ça. Je tiens, ils n'ont pas dit un mot. Non, s'il vous plaît. Joachim. Non, s'il vous plaît. Il y a Thomas.
Mais oui.
Les deux nouveaux, ça y est, vous êtes.
Ils font des tunnels.
Voilà.
Ils ont pris confiance.
Il faut que moi je fasse la police.
Ah oui,
police.
Je vous tiens directement responsable du retard, Pascal.
Et vous avez raison. Et vous pouvez me tenir responsable de tout ce qui se dit sur ce plateau, parce qu'en plus, vous avez raison. Je suis le modérateur et je dois faire attention à tout ce qu'il se dit.
Allez, à tout à l'heure, Pascal.
Merci de m'avoir dit bonjour. Thomas, il est merveilleux, il est sympathique, il est formidable, c'est un vrai gentil, c'est assez rare dans nos métiers. Il faut être gentil, il y a des vrais méchants, et les vrais gentils ne sont jamais ceux qu'on croit. Les vrais gentils sont pas toujours
parfois les vrais méchants sont.
Parfois les vrais méchants sont ceux qu'on voit, vous avez raison. On fera un sujet un jour là-dessus. Allez, la pause, à tout de suite. Il est 9h32, Sandra Tchimbo est avec nous. Bonjour Sandra.
Bonjour Pascal. Bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une de l'actualité, ce jeudi, une femme de 57 ans est décédée à Courmel dans l'Aisne à la suite d'une coulée de boue. Cet accident fait suite aux orages la nuit passée dans le département. La boue s'est engouffrée dans une dizaine d'habitations, dont celle de la victime. La façade a éclaté sous le poids de l'eau. La dame a été emportée. Sylvie Retailleau réunit les présidents d'université ce jeudi à Paris. Au centre des discussions, les récentes mobilisations pro-palestiniennes, notamment à Sciences Po et à la Sorbonne. La ministre de l'Enseignement supérieur veut accompagner les chefs d'établissement et réinstaurer un cadre républicain. Et puis le syndicat Sudrail Île-de-France a lancé un appel à la grève. Elle concerne la journée du mardi 21 mai. Les cheminots veulent faire pression sur la direction avant les négociations prévues sur les primes versées pour les Jeux Olympiques cet été. Des perturbations sont à prévoir sur le RER et les Transilien.
Merci beaucoup Sandra. On va parler dans une seconde d'élections européennes, mais ce matin, il n'y a pas d'actualité forcément nouvelle dans les infos. Donc il y a des choses en revanche qui m'ont fait réagir, et vous avez peut-être entendu la prise de parole de Philippe Candeloro chez nos amis du Figaro. Alors il y a un côté un peu Patrick Sébastien dans ce qu'a dit Philippe, et je voulais simplement soumettre à votre sagacité ces mots qu'il a exprimé. J'ai l'impression qu'être hétéro aujourd'hui, c'est une maladie, a-t-il dit. Donc je lui souhaite bonne chance après cette déclaration. Écoutons.
Aujourd'hui, avec le MeToo, avec le wokisme et tout ça, on n'est plus aussi naturel qu'au départ. Hein.
C'est-à-dire ?
Ben, moi, en 2006, quand j'ai commencé hein, à Turin, je parlais...
Vous êtes complètement censuré ?
En fait, on ne nous dit pas « tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça ». C'est juste qu'on s'auto-censure aujourd'hui. Par peur de dire que chaque mot qu'on va prononcer de notre bouche va être presque une insulte.
Mais vous trouvez que maintenant on s'ennuie en regardant le patinage ?
Et avant que j'arrive, on s'ennuyait. Enfin, avant qu'on arrive à commenter le patinage avec le petit sens de l'humour qu'on a essayé d'apporter dans les moments où il était chiant, nous on a apporté un peu d'humour entre les deux, ce qui faisait que des mecs qui ne regardaient jamais le patinage se sont mis à nous écouter. Un mec ou dame, hein, c'est pas...
La... Est-ce que vous êtes deux... C'était un peu sexiste.
Bah, c'est ce qu'on a... On a tendance à me dire. Alors, moi, je suis hétéro, oui. Est-ce que c'est une maladie aujourd'hui d'être hétéro ? J'ai l'impression que oui.
Bon. Il force le trait, mais il n'a pas tort. Aujourd'hui, on
c'est
a...
C'est une maladie d'être hétéro.
Non, non, mais il j'ai dit il force le trait.
Ça veut dire quoi ?
Mais on a parfois l'impression qu'en art, par exemple... Il suffit qu'il y ait des homosexuels dans le casting et que les personnages soient de ce registre-là pour que d'emblée, certaines publications crient au chef-d'œuvre.
Est-ce que c'est difficile d'être hétéro aujourd'hui dans notre pays ?
J'ai des exemples.
Est-ce que c'est difficile, Philippe ?
Sans aucun problème.
Est-ce que c'est difficile, Philippe, d'être hétéro dans notre pays aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des discriminations notables qui visent les hétéros aujourd'hui dans notre pays ?
Je plaisantais un petit peu.
Non, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Il y en a pour d'autres, par contre, qui n'ont pas cette orientation.
Mais aujourd'hui, j'ai des exemples même politiques. Lorsqu'on apprend, par exemple, dans certains pays étrangers qu'une première ministre ou qu'un chef d'État est homosexuel ou éventuellement lesbienne, eh bien, on a tendance à considérer d'emblée la politique qu'elle mène est valable. Je trouve qu'on tire de manière un peu
abusive. Mais là, c'est n'importe quoi. Mais là, c'est, on est en plein délire.
Mais je
jamais dû... Donnez-moi un exemple.
Mais si je
me Philippe,
en Nouvelle-Zélande ou en... je n'ai plus le pays.
Ou en Australie ou en...
On a pu avoir l'impression que le registre intime garantissait la validité d'une politique. Et ça, si j'avais le temps de le développer, je le démontrerais.
Il nous faudrait un exemple. Vous l'avez pas l'exemple concret.
Si, mais.
Non, mais oui.
Ah non, vous l'avez pas.
Je n'ai pas votre culture.
Eh bien, écoutez,
non, mais
Philippe, on va parler.
Pays scandinave, vous avez parlé de Nouvelle-Zélande.
Gabriel Attal a parlé de sa situation personnelle. Ouais. Bon, ça n'empêche pas Gabriel Attal d'être attaqué fortement.
Il y en a qui le traînent dans la boue à cause de ça.
Mais qui ?
Vous tombez des nues ou quoi ? Gabriel Attal, il y a des gens qui...
Il n'y a pas eu une campagne homophobe.
L'attaque parfois parce qu'il a eu le...
Ah ben la contre alors.
Homosexuel.
Non, ça contredit ce que vous venez de dire.
Mais pas du tout. Vous nous proposez un propos excessif mais drôle de Candeloro.
Vous trouvez que c'est drôle ?
Et une fois qu'on l'approuve en introduisant un peu de nuance, vous dites que c'est faux. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, que Libération, quand il fait de la critique cinématographique, ne met pas en évidence le caractère homosexuel de certains des personnages ?
Je n'ai pas sentiment. J'ai en revanche le sentiment que la critique aujourd'hui se fait selon des critères de bien-pensance. Et la bien-pensance, c'est d'épargner les damnés de la Terre. Qui sont les damnés de la Terre ? Ce sont les victimes de l'homme blanc. Pour aller vite, donc capitaliste, colonisateur, etc. Donc ça, c'est les damnés de la Terre, première chose. Et deuxième chose, il ne faut pas offenser les damnés de la Terre. Donc on ne fait pas d'humour.
Mais
voilà, c'est l'impression que j'ai. C'est une grille de lecture qui existe sur la critique culturelle.
C'est pas la
cinéma, littéraire, etc.
Il n'y a pas eu de campagne homophobe contre le nouveau Premier ministre.
On va parler de M. Glucksmann.
Ah, ça c'est intéressant.
Ouais, parlons de M. Glucksmann.
Non, ça c'était pas très...
Ah ben,
ça, c'était pas très... Vous trouvez que c'était pas très intéressant ?
On va rejoindre l'exemple, une forme de consensus, là.
Alors, ben justement, ça va nous faire du bien. Un peu de consensus dans ce monde de brut. Alors, on va revoir la séquence, parce qu'il a été... voyons cette séquence, d'ailleurs, où il a été...
C'est de la faute de personne. Hein. Personne n'assume. La France Insoumise, le Parti communiste.
Oui. Moi, j'ai été surpris qu'il s'en aille. Je pense que dans ces cas-là, tu...
C'est difficile. C'est énorme, là.
Pascal, c'est difficile.
Mais là, c'est compliqué de pas s'en aller.
Bref. Mais quand vous dites... Attendez, je vous donne la parole. Soyez gentil. Quand vous dites « personne n'assume », non. Lionel Jamon, qui est député...
suppléant de la députée insoumise.
Personne n'assume dans les... Ah ben, première ligne, vous voyez, Jean-Luc Mélenchon,
c'est un suppléant
du PC.
C'est un suppléant. Un supplément, je ne sais pas, mais c'est un suppléant, monsieur Lionel Jamon. Il a dit j'assume, parce que ce n'est pas un homme de gauche, ce n'est pas un homme qui se bat pour la retraite, c'est un homme qui a été aux côtés d'un dictateur, etc. Lui, il a assumé, il est la France insoumise, monsieur Lionel Jamon.
Il y a des militants de la France insoumise, il y en a très clairement qui se sont exprimés en plus à des micros de confrères, qui disaient assumer effectivement d'avoir chassé Raphaël Glucksmann parce qu'il n'était pas un homme de gauche. Il y a eu donc des militants de la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon s'en prend maintenant à Raphaël Glucksmann en disant que c'est un menteur. Manuel Bompard s'en prend aux médias en disant qu'il n'y a plus un journaliste valable dans ce pays et que c'était pas la France insoumise. Il y avait aussi les jeunes communistes et la tête de liste, Léon Desfontaines, des communistes, était interrogé hier et on lui dit bon bah il y avait le drapeau des jeunes communistes. Les jeunes communistes du coin ont même tweeté. Il a dit non, ces jeunes communistes ne font pas partie du Parti communiste. Ah bon, des jeunes communistes qui ne font pas partie du Parti communiste. Donc personne n'assume en première ligne. Et il y a plusieurs choses. Il est donc chassé au cri de « Casse-toi, Palestine vivra ». Il lui reproche quoi, Raphaël Glucksmann, ses militants? Parce qu'au Parlement européen, il a voté pour le cessez-le-feu à Gaza. Il critique la politique de Benjamin Netanyahu, Raphaël Glucksmann. Donc il lui reproche quoi? Il lui reproche d'être juif. C'est ça ce que lui reprochent ces militants qui l'ont chassé hier de cette manifestation. Parce qu'en plus, il est sur leur ligne du cessez-le-feu et sur leur ligne de la critique de la politique de Benjamin Netanyahu. Voilà. Et Raphaël Glucksmann, pour le dernier point, c'est qu'il n'a jamais critiqué la NUPES au moment de sa formation, au moment des législatives. Et quand il fait son point presse, on peut peut-être voir le son si vous l'avez, il est à côté de celui qui a négocié la NUPES pour le Parti Socialiste et qui a même dit qu'il fallait une liste commune de la NUPES aux européennes.
Bon, je demande à Marine si c'est l'interview qu'on a de Raphaël Glucksmann que je vous propose de toute façon d'écouter.
Alors franchement, je les connais pas personnellement, donc c'est compliqué, on va voir qui c'est, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des drapeaux de partis politiques, il y avait des drapeaux de Révolution Permanente et de la France Insoumise, donc voilà, c'est leur conception du débat démocratique, c'est pas la nôtre. Nous, on est des démocrates de combat, des démocrates jusqu'au bout des ongles, et on exclut a priori toute forme de violence physique et verbale de la confrontation politique qui fait vivre la démocratie.
La révolution dévore ses enfants. Si LFI était au pouvoir, M. Glucksmann, il serait avec nous dans la charrette.
Pierre Jouvet.
Sûrement.
C'est Pierre Jouvet que vous voyez à côté de Raphaël Glucksmann.
On s'y attend. Oui. Mais en revanche.
Bien sûr. Et quand même, c'est important. Pierre Jouvet, l'homme qui est à côté de Raphaël Glucksmann, c'est lui qui allait négocier au siège de la France Insoumise les places, les députations pour le Parti Socialiste.
La révolution dévore ses enfants.
C'est ça qui est frappant dans cette histoire. Évidemment, il faut condamner ce que Raphaël Glucksmann a subi. Maintenant, lorsqu'on joue avec le feu, on se brûle. Enfin, les socialistes, pour garder quelques postes de parlementaires, se sont alliés avec l'extrême gauche dans ce qu'elle a de plus fanatique et sectaire. Et c'est une vieille loi de l'histoire, on trouve toujours plus pur que soi, et les alliés de circonstances d'un jour sont les ennemis de demain. Je rappellerai juste une phrase, celle de Danton en 94, quand il envoyait à l'échafaud, il passe devant la maison de Robespierre. Qu'est-ce qu'il dit à Robespierre? Il dit « Robespierre, tu me suis, ta maison sera détruite, on y sèmera du sel ». C'est exactement cette logique qui se répète aujourd'hui.
Il n'empêche que j'aime beaucoup Raphaël Glucksmann, notamment à cause de la manière tranquille et intelligemment ironique dont il traite les controverses qu'il concerne. Je trouve que ça nous change du bruit de la fureur. Je trouve que sa réaction a beaucoup de classe.
Juste un tout petit mot. Le sens de la démocratie, selon M. Glucksmann.
Bref, consensuel.
Le sens de la démocratie, selon Raphaël Glucksmann.
C'est mieux que ce que vous disiez sur l'homosexualité tout à l'heure.
C'est juste, mais simplement.
En
progrès.
Poursuivez vos efforts.
Dès qu'on a un point de vue un peu dissident qui tranche.
Mais parce que vous n'aviez pas d'exemple.
Ne dites pas ça, les points de vue dissidents autour de la table.
Mais dans le domaine intime, on n'a pas le droit de dire des choses.
Mais si, vous avez tous les droits.
Mais vous avez d'emblée considéré que c'était faux.
Ben, je considère
vous qui êtes en général un homme libre.
C'est en général, mais oui. Je considère, j'ai cherché.
Mais parce que vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu le voir.
La seule chose que vous avez dit, c'est je ne peux pas dire parce qu'il me faudrait plus de temps pour trouver un exemple. Mais voilà ce que vous avez dit. Vous avez dit Pascal. Bon, alors arrêtez.
Si vous me faites rire, c'est déloyal.
Donc j'ai cherché un exemple, je l'ai pas trouvé.
Mais je vous assure.
Oui, mais alors sortez-le de votre poche.
Vous avez dit la Nouvelle-Zélande. Vous avez dit la seconde.
Non,
mais...
Qui peut
le plus, peut le moins.
Qui peut légitimement dénier qu'aujourd'hui,
oui,
nous. Le.
On est revenu,
D'importance donnée à l'homosexualité que je trouve totalement légitime.
Pouvez-le. Mais ça veut rien dire.
Il suffit de tout lire, d'aller voir les films, de lire les critiques, de considérer la manière.
Mais vous confondez tout. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une représentation aujourd'hui d'un monde qui n'existe.
Je l'ai dit.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un monde aujourd'hui représenté dans la littérature ou dans le cinéma qui n'était pas représenté avant et qui était caché. Ça, c'est vrai. Et ben tant mieux.
C'est tant mieux.
C'est-à-dire que quand vous voyez un film de fiction aujourd'hui, vous pouvez voir que effectivement le prof, par exemple, il n'est pas avec une femme le soir, il est avec un homme. Ben oui, c'est la réalité du pays.
Ça ne me gêne pas.
C'est ça la vérité.
Mais
c'est tout.
On était partis.
Donc j'ai vu l'autre jour, par exemple, un film avec François Civil.
Pas de vague.
Il est prof, pas de vague. Ben oui, effectivement, il vit avec un homme. Parce qu'avant, alors dans les années 70, il n'y avait pas ça. Parce qu'on ne le montrait pas. Ça existait, mais on ne le montrait pas. Et c'est tout. Et pour vous, ça devient, oui, moi j'entends.
Mais ça ne m'aurait pas manqué, objectivement, attendez.
Ah, ça veut dire quoi, ça n'aurait pas manqué?
Mais non, vous.
C'est une drôle de phrase.
Ce que je veux vous dire, c'est que ça, c'est tout simplement la vie, en fait.
Bah oui.
Le cinéma représente aujourd'hui la vie.
D'abord, je ne suis pas persuadé que l'art doive représenter la vie, mais ça, c'est un autre problème.
Sabrina, c'est un autre problème. Alors, si l'art ne représente pas la vie, allez à la FIAC chaque année, comme ça, vous serez servi.
Non, pas du tout. Pensez à Fanny Ardant qui a dit une chose très juste.
Elle a dit
je n'aime pas les dialogues au théâtre qui ressemblent à ceux de la vie.
Mais elle a raison.
Oui, mais vous contredisez.
Non, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir.
Vous dites que l'art doit représenter la vie.
Mais je dis pas ça. Je dis que l'art, c'est tellement multiple que de temps en temps, tu as des films d'une époque et puis effectivement,
les homosexuels dans les films ne sont pas là uniquement en tant qu'homosexuels.
Mais convenez que chez Corneille, chez Molière, chez Racine, etc., il y a peu d'homosexuels. C'est tout ce que je veux vous dire. Et alors que sans doute. Et Molière était sans doute homosexuel.
Et ça vous empêche d'admirer ses grandes œuvres?
Non.
Non.
Mais on n'en parlait pas, c'était tabou, c'est tout ce que je veux vous dire. Molière, il est arrivé à la cour avec Monsieur Frère du Roi. Donc,
voilà. Vous étiez progressiste, c'est bien.
C'est pas progressiste.
Oui, il est. Oui.
En tout cas, je veux pas. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse sur Molière. Georges Forestier est mort, personne n'en a parlé.
C'est vrai.
Et je trouve qu'on l'avait reçu ici. C'est un drame. Même moi, je m'en veux. Georges Forestier, c'est l'homme qui connaissait le mieux Molière. Au monde. Et il est mort, il était prof à la Sorbonne, il est mort, le pauvre, d'un cancer, il avait 72 ans. C'est un homme merveilleux, de très grande culture. Vraiment, il était formidable, cet homme-là. Je m'en veux de ne pas en avoir parlé. Donc vous voyez, je referme la parenthèse
Molière,
et je ne vais pas aller sur le terrain
sur
de l'homosexualité de Molière.
Pour Molière, je vous rejoins.
Quoi de neuf, Molière, disait Sacha Guitry. Sabrina Medjaber.
Par rapport à Raphaël Glucksmann et son sens de la démocratie, je relis dans Télérama ses propos qu'il avait tenus à propos de notre chaîne. C'est un instrument à des fins idéologiques, une croisade culturelle, politique, idéologique que moi je ne me vois pas cautionner. Je ne me vois pas cautionner le projet d'extrême droite que Éric Zemmour a érigé pendant des années. Donc la démocratie de M. Glucksmann, elle est un peu à géométrie variable. Et là, quand on voit ce qui se passe avec son parti pris idéologique, c'est un peu l'arroseur arrosé.
Si je voudrais être très désagréable, je rappellerai que Léa Salamé a animé un débat chaque samedi, chaque vendredi, où Éric Zemmour était face à M. Domenac.
Voilà, exactement.
Donc,
vous seriez vraiment très désagréable de le dire.
Non, mais je l'aime bien en plus, Raphaël Glucksmann, j'aime bien tout le monde, vous savez bien, il devrait venir ici d'ailleurs. Vraiment, je trouve qu'il devrait venir ici.
Il y a un projet culturel idéologique.
Je l'invite là. Mais il ne pense même pas ça. Il ne pense même pas ça. Vous dire. Voilà, il le dit, il ne le pense même pas parce que personne ne pense ça.
Il était là.
Mais bien sûr, ça c'est joli comme phrase, ce serait bien s'il était là.
Non,
vous êtes en forme aujourd'hui.
J'éprouverais un grand
plaisir. Mais je suis d'accord, mais moi aussi. Mais je suis d'accord, en plus, il a beaucoup de charme, il est intelligent, ça serait vraiment plaisir. Vraiment, j'aimerais qu'il vienne.
C'est incohérent, c'est le moment de la NUPES.
Mais exactement. Voilà, bon, les élections européennes, voyons le sondage. Le sondage des élections européennes, parce que là, ça va tanguer. Est-ce que vous avez des infos sur le
débat
face à face?
Bien sûr. Le débat se fait à la demande d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal ne voulait pas du débat. Il l'avait dit à plusieurs reprises, je suis pas tête de liste, je suis pas chef de parti, je suis Premier ministre, je vais pas faire monter Jordan Bardella en acceptant de débattre avec lui. C'est Emmanuel Macron qui lui a mis la pression et qui l'a poussé dans le dos pour y aller. Pour tout vous dire, j'ai échangé avec l'entourage du président qui était très enthousiaste à l'idée de ce débat. Gabriel Attal va plier Jordan Bardella et après je demande le point de vue de Matignon et on suis sûr que oui, il y aura peut-être un débat quand on le voudra. Non, il y aura un débat parce que c'est l'ordre d'Emmanuel Macron à Gabriel Attal. Donc c'est descendre dans l'arène et va débattre avec Jordan Bardella. Vraisemblablement, je vous le disais hier, ça sera sur TF1 en prime time et il manque plus que la date pour que les deux hommes s'affrontent. Voilà.
C'est plutôt cohérent ce qui avait été annoncé lors de la nomination de Gabriel Attal à Matignon.
L'Armanti Bardella, oui. Qui s'est transformé en
donc
pistolet
allons-y.
À eau.
Oui. Bon, écoutez Marine Le Pen, hier, vous échangez avec l'entourage du président de la République.
Ça m'arrive.
Marine Le Pen.
Comme vous-même d'ailleurs.
Comment ?
Comme vous-même.
Non, j'échange avec tous les entourages.
Bah bien sûr. Bah,
moins avec celui de Jean-Luc Mélenchon.
Ah, je dois plaider.
Il ne me prend pas toujours au téléphone.
Exactement.
Il ne me
pareil.
Prend pas toujours au téléphone. Je le regrette d'ailleurs, monsieur Mélenchon. Ah, si, Manon Aubry, c'est très intéressant, Manon Aubry. D'ailleurs, je vous ai écouté ce matin, vous avez parfaitement raison.
Alors, Manon Aubry.
Manon Aubry, elle n'est pas du tout sur la ligne de Rima Hassan.
Mais pire que ça.
Il y a même, une opposition très forte en L2.
Pire que
entre elles, elles deux.
Alors, d'apparence, non. Elles se montrent à chaque fois toutes les deux lors des manifestations de soutien, notamment à Rima Hassan. Je note une chose. Sur les affiches maintenant des meetings de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a plus que Rima Hassan. Ils ont complètement occulté Manon Aubry, qui est la vraie tête de liste pour les européennes. Mais vu qu'ils veulent faire du sujet numéro un de ces européennes le conflit entre le Hamas et Israël, Gaza, eh bien, ils occultent complètement leur vraie tête de liste, Manon Aubry. Donc, ils doivent évidemment mal le vivre.
Manon Aubry,
bah oui, bien sûr.
On est un peu parce qu'elle est en effet sur l'ADN historique de la gauche sur le Proche-Orient, sur la solution notamment à deux États. C'est quelque chose qu'elle a toujours porté, et d'une manière dans sa cohérence.
Écoutez, moi j'ai reçu deux fois Madame Aubry. Je la trouve formidable, je la trouve intelligente, je la trouve sympathique. On avait échangé parce qu'elle est une sportive, j'allais dire comme par hasard. Mais les gens qui font du sport...
Ils sont mieux dans leur cerveau.
Elle fait du water polo.
Ah oui.
Et croyez-moi, pour faire du water polo, faut être en forme. Et puis, ça t'apprend le collectif, ça t'apprend plein de choses, manifestement le sport. Et en revanche, elle est sur une ligne radicale sur le plan économique, notamment.
Oui, oui.
Hein, et évidemment, où
gauche libérale. Oui.
Voilà.
Oui,
elle est gauche
qui est donc des lignes sérieuses.
Moi, d'abord, tu peux échanger avec elle, ce qui est agréable et sympathique. En fait, elle est à l'ancienne. Elle n'est pas intolérante. Elle a des idées qui sont les siennes.
Faut noter que
dans le débat, elle n'est pas intolérante. Après, elle a ses idées.
Et du côté de la France Insoumise, il n'y a jamais une polémique qui est déclenchée par Manon Aubry.
Jamais. C'est vrai.
Vous n'irez pas jusqu'à penser comme elle, peut-être.
Non, mais c'est toujours pareil. Quand tu trouves quelqu'un sympathique...
On change.
Quand tu as affaire à la patte humaine...
Bien sûr.
Que tu vois la jeune femme, comment elle est, comment elle se conduit, comment elle dit bonjour à droit aux gens, etc.
C'est très important.
Bah, tu te fais une idée.
Oui, oui. Absolument.
Moi, j'ai vraiment beaucoup très apprécié. J'espère que c'est réciproque. Peut-être qu'elle ne dirait pas la même chose, mais j'espère que c'est réciproque. Marine Le Pen, hier, qui veut protéger les enfants de France. Écoutons-la, elle était en meeting.
Nous voulons que la France défende ses enfants, défende ses intérêts en Europe, comme le fait actuellement l'Allemagne et tous les pays du monde. Ils ont raison de le faire. Et nous avons raison d'exiger de nos dirigeants qu'ils nous défendent. Nous cultivons un esprit français qui se fait un devoir d'écouter la parole de tous parce que c'est une marque de respect de l'autre, une exigence pour progresser et un commandement démocratique. Un esprit français qui sait inventer les voies nouvelles, les idées qui élèvent l'homme, les systèmes qui le protègent.
On va marquer une pause et on va recevoir Jordan de luxe. Il y a un mot moi, que j'aime beaucoup, qui est de plus en plus rare, c'est original. Un talent original, une pensée originale, un être original.
Ah, c'est clair.
Et aujourd'hui, nous sommes entourés de clones tristes, parfois. Eh bien, monsieur Jordan de luxe, il ne ressemble à personne. Et c'est pour ça qu'il vient. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises, je suis assez d'accord avec vous.
Pascal, on va mettre... J'aime bien quand vous dites Pascal, mais vous ne le dites plus dans le temps, vous disiez ça.
Comment pouvez-vous perdre votre temps comme animateur alors que vous auriez fait un formidable imitateur ?
Vous avez toujours le mot gentil.
C'est un compliment.
Franchement,
on avait Laurent Gérard la semaine dernière. À chaque fois que je rends hommage à Pascal Pro, on trouve que je le critique.
Oui, parce qu'il y a toujours un petit peu de fiel là-dessous. Oui.
Mais pas du tout. Il a mauvais esprit.
Je ne sais pas de qui il tient.
Il est trop dans le monde politique.
Je ne sais pas de qui il tient, le jeune Lebret. Alors, vous savez ce que j'ai appris en plus ? Au mois d'août, maintenant, il part en vacances. Et oui, on en a parlé avec M. Nedjar hier, parce qu'on est en train de penser... Je ne suis pas là, juillet, août. Donc j'ai dit, théoriquement, c'est M. Lebret, M. Deval qui sont là. Ça y est, les jeunes, ils sont installés, ils partent, juillet, août.
Vous ne pensez pas à moi.
Et puis ils mettent M. Nedjar en difficulté, qui est en train de... Voilà, etc. Ça y est, c'est fait, les jeunes.
Ça va raccourcir vos vacances.
Les jeunes.
Pascal Pro,
les jeunes, oui.
Ça va raccourcir vos vacances.
C'est le droit, là.
Écoutez, je suis là, les vacances, la jeunesse, monsieur.
Alors,
la jeunesse.
Ce sera lui en juillet ou...
C'était différent. Allez, à tout de suite.
Ah oui, non, mais je rêve.
À quoi tu sers, Confidence sans détour, Jordan Deluxe est avec nous. On va parler de sa biographie dans une seconde, qui est éditée chez Le Duc, mais Sandra Chimbo nous rappelle les titres.
La direction de Sciences Po organise aujourd'hui une rencontre avec les étudiants au centre de discussion. Le sujet de la Palestine, ce principe s'appelle un town hall. Ce modèle provient des États-Unis. Les échanges auront lieu sans banderole, drapeau ou slogan, avec un temps de parole limité pour chaque intervention. Un haut responsable du Hamas s'est exprimé la nuit passée. La position du mouvement sur la proposition de trêve est pour l'instant négative, mais il l'assure, des discussions sont toujours en cours. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken exhorte une nouvelle fois le Hamas à accepter le texte. Depuis, l'Indonésie évacue des centaines de personnes près d'un volcan en éruption. Les secouristes et l'armée envoient des navires à Tagulandang, une île voisine. Ils craignent la formation d'un tsunami. Le mont Ruang est entré en éruption à 3 reprises mardi, projetant de la lave à plus de 5 km.
Merci Sandra. Jordan Deluxe, à quoi tu sers ? Jordan Deluxe. En deux mots, avec une particule, vieille famille bretonne, peut-être Deluxe.
Pas du tout, Monsieur Pro. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'inviter. Je suis très impressionné et très honoré d'être là. Et ma mère m'a envoyé un petit message tout à l'heure. Je lui ai dit, maman, je fais Pascal, j'ai peur. Elle m'a dit, t'inquiète pas, c'est un gentil.
Il est gentil, Pascal.
Et ouais, il est gentil, Pascal.
Et, donc, non, mais alors, évidemment, c'est formidable d'ailleurs. Moi, je trouve que l'idée que vous avez eue d'avoir ce pseudo, je ne sais pas comment vous avez choisi ce pseudo.
En fait, mes parents sont bretons, donc mon vrai nom de famille, c'est Guinel. Oui. Mais à l'école, c'est vrai que c'était beaucoup Guinel, Guignol. Enfin bon, avec l'adolescence que j'ai eue qui était compliquée. Donc du coup, c'est vrai que je me suis dit, je veux pas de ça pour plus tard. Et si jamais je rentre en télé et que ça marche un petit peu pour moi, j'aimerais pas que ça retombe directement sur mes parents. Donc du coup, je voulais enlever le nom, parce qu'il est complètement con, puisque
j'aurais
je suis en train
dû
de donner.
À cela, moi,
oui, mais c'est pas grave.
25 ans, j'aurais dû avoir un éclair de lucidité.
Oui. Et donc du coup, un jour, je vais changer de nom de famille, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais sur une radio qui s'appelle Voltage, et on allait m'appeler Voltage Man, et je me suis dit, j'ai pas envie de m'appeler Voltage Man toute ma vie. Et donc du coup, j'ai dit deux secondes, demain matin, je vous donne mon nom et mon prénom que je vais utiliser. J'ai gardé Jordan et j'ai été dans un fast-food que vous connaissez toutes et tous. Voilà, exactement. Et au moment de me servir le plat, la serveuse qui, à mon avis, faisait une école de théâtre, me dit « Évidemment, il y a le Big Mac et ce sandwich qui est incroyable, il est magnifique, il est unique, il est rare, il coûte pas cher et il sera toujours à l'affiche quoi, du fast-food ». Je dis, c'est quoi? Il me fait, c'est le Royal Deluxe. Je dis, mais Deluxe, c'est génial, j'adore.
Ouais, c'est
du côté pas cher, populaire, me plaisait beaucoup. Et donc, du coup, le lendemain matin, j'ai dit à Voltage, la radio, j'ai dit, je m'appelle Jordan Deluxe.
Bon, on va parler évidemment de votre itinéraire qui est quand même très particulier. Vos rêves d'enfant, petit, je voulais être acteur. J'étais fasciné par la télévision, ce lieu merveilleux où les gens semblaient toujours être heureux. Je regardais ces célébrités avec des étoiles plein des yeux. Je me disais que leurs parents devaient être immensément fiers d'elles. Alors, il y a souvent un parcours, évidemment, qui est le même chez ceux qui font parfois de la télé, qui font parfois aussi du théâtre ou du cinéma, une volonté de notoriété, voilà, d'être connu. Aujourd'hui, c'est une valeur qui était moins présente peut-être dans notre génération. Nous, on faisait une école de journalisme, et puis on aurait pu être dans la presse écrite ou à la télévision, et puis, bon. Et est-ce que ça, vous aviez envie qu'on vous reconnaisse ?
J'avais envie qu'on m'aime, Pascal. C'est surtout ce que j'avais envie.
Mais tout le monde a envie.
Mais oui.
Imagine, vous connaissez des gens qui disent « j'ai pas envie d'être aimé ».
Je sais, mais peut-être... certains plus que d'autres, ouais. Quand notamment on a eu des...
Et c'est une thérapie alors, vous trouvez, la télé ?
Ah oui, ça me fait du bien, parce que quand les gens viennent vous voir dans la rue et vous disent j'ai été à la Foire de Paris hier par exemple, j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir, ça m'a beaucoup touché. Ouais.
Vous savez qu'il y a quatre, alors c'est pas moi qui cite, il y a quatre amours possibles, paraît-il, dit Kundera. être aimé par des gens que tu ne connais pas, les stars, tu chantes sur scène, tu ne les connais pas, être aimé par des gens qui sont autour de toi, des amis, alors ça c'est l'amour un peu bourgeois, des amis, tu vis en colonie de vacances, etc. Être aimé par une seule personne, toute ton énergie, c'est ta femme ou tes enfants, quoi. C'est vraiment très, même, voilà, c'est une fusion, et être aimé par quelqu'un qui n'est plus là. Dieu, je sais pas, c'est, tu vis sous ce regard-là. Et ça, c'est dans l'insoutenable légèreté de l'être, c'est Kundera qui développe ça. Je ne sais pas s'il a raison ou pas, je ne sais pas si quel type d'amour vous recherchez-vous, le plus important pour vous, être aimé. C'est formidable
par
de vous.
Par exemple, une seule personne, c'est bien quand même.
Oui, mais celui de vouloir être aimé par des gens que tu ne connais pas, c'est curieux quand même.
Ah, mais c'est bien. Oui.
D'être aimé par des gens que tu ne connais pas ?
Non, mais je suis. Non,
mais. C'est le star de vouloir être sur scène des gens que tu ne connais pas et qui. Moi, vous aimez ça.
Touché par la gentillesse des gens à mon égard. Oui. Ça me change.
C'est vrai.
Même ceux que vous avez fait condamner ?
Non, mais ça fait longtemps. Mais les gens sont adorables. Non,
il faut
adorables.
Que les gens qui viennent nous parler ont toujours des choses positives à nous dire. Il faut. Non, mais c'est une règle. Non, mais c'est une règle. Ceux qui ont des choses négatives ou qui ne nous aiment pas, ils ne nous abordent pas.
Ils vous disent, par exemple, heureusement que vous êtes là, Olivier.
Ils me parlent de vous. Le sujet, c'est vous.
Non, arrêtez. Ah, mais c'est vrai.
Oui.
Non, ça m'étonne
pas. Oui, ils me disent, heureusement que vous êtes là.
Voilà, ils parlent de vous. Ils disent, heureusement que vous êtes là, Olivier, pour faire passer des idées, parfois, sur le plateau.
En général, ils me disent, mais pourquoi Pascal ne vous laisse jamais parler? Et je réponds, mais
c'est le principe de l'émission.
C'est la vedette de l'émission.
Non, mais c'est vrai, Pascal, parce que sincèrement, moi, quand j'ai reçu Philippe, c'est la première chose que je lui ai posée comme question hors antenne. Je lui dis, mais il est comment, Pascal Praud, dans la
vie ? Oui, mais voilà, bon. C'est la question qu'on nous pose.
On parle de comment est Cyril Hanouna. Voilà.
Oui. Bon, et bien justement, Cyril, puisque d'abord on l'embrasse, évidemment, Cyril, les débuts sur C8, Franck Apieto, directeur de C8, vous a appelé après, je crois, un tournage dans Touche pas à mon poste. Sur le plateau, tous les chroniqueurs se taquinaient, j'ai voulu faire pareil, mais je m'y suis très mal pris, écrivez-vous. Ainsi que je l'ai évoqué précédemment, j'ai maladroitement vanné Mathieu Delormeau. Or, il n'était pas présent. Cela a froissé sa fan base et j'ai reçu une volée de bois vert sur Twitter. Bon, c'est essentiel quand même, hein, comme effectivement ce que vous racontez.
Non, mais ça, c'était les premières. C'est vrai que j'ai fait un petit peu de touche pas mon poste et c'est vrai que c'est terrible parce que si on fait une connerie, on prend très cher sur les réseaux derrière. Donc j'ai découvert ça.
Je dis raison. Alors, cette idée-là, pourquoi vous êtes toujours. Ça, c'est génial.
Mais ça, c'est Geneviève de Fontenay. Parce que j'ai noué une amitié avec elle assez forte lors d'une émission de radio. Et donc, du coup, elle était toujours tirée à quatre épingles. Puis j'ai toujours été fasciné par ces gens qui, pour moi, inspirent le respect. Et pour moi, les gens bien habillés, c'est très important. Des boutons de manchette, je les vois là à droite. Oui. C'est des petits détails qui sont importants. Et il fallait se différencier des autres. Je me suis dit, la cravate, en l'occurrence, vous l'avez. Il y en a pas mal qui regardent, Philippe aussi là. Donc, la cravate, c'est quelque chose d'assez commun. Cependant, il y a des costumes trois pièces. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est vraiment la chose la plus sympathique? Et je me suis dit, c'est le petit nœud papillon. Parce que le nœud papillon, c'est pour le festival de Cannes, c'est pour un mariage, pour une belle occasion. Et c'est aussi une marque de respect envers les téléspectateurs, parce que j'aime cette télé d'avant où les gens s'habillaient pour faire de la télé. De Dalida, la télé, voilà.
C'est un tout petit nœud papillon que vous
avez fait. Il est tout petit.
Il est fait
sur mesure par une dame. C'est du travail bien français.
Ah ouais.
Oui, en France. Et d'ailleurs, je vous en ai pris un petit. Je voulais vous l'offrir à la fin.
Attendez, vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil.
Le petit drapeau.
Je vais le mettre.
Il est tout en soie. Voilà.
Bon, l'actualité, vous le savez, nous passons cette dernière demi-heure généralement avec un invité, mais ça ne nous empêche pas de poursuivre l'actualité. Et l'actualité, c'est le town hall de Sciences Po.
Très bien.
Ça vous choque pas qu'on dise un town hall à Sciences Po ?
Mais vous savez que la négociation entre le comité Palestine et Jean Basser et la direction de Sciences Po s'est déroulée en anglais, vous le saviez ?
Non, mais je trouve ça effrayant.
De
même que dans le comité de Sciences Po, on emploie le terme communauté. C'est quand même très symptomatique d'une.
Parce qu'il y avait des étudiants étrangers.
Les étudiants étrangers étaient
présents dans le comité Palestine. Ouais. Et donc, l'échange s'est tenu en anglais.
Alors, town hall, ça veut dire quoi ? Ça veut dire.
Hall de ville.
C'est hall de ville. Bah, oui.
Ça vient des États-Unis.
On voit le niveau en anglais général sur le plateau.
Non, mais.
Plus bas.
On ne peut pas dire l'agora, effectivement, qui est un tellement joli beau.
Oui, bien sûr.
Moi, je suis choqué.
Vous savez qu'il y avait un engagement ? Ça devait être ouvert à tous.
Oui,
moi, j'ai une élève de Sciences Po qui vient de m'écrire. Oui. Aujourd'hui doit se tenir le town hall à Sciences Po à 10h, comme le mail de Jean Basser nous le précisait ce 30 avril. Ce mail précisait que nous allions recevoir un lien d'inscription, lien que je n'ai jamais reçu.
mais bref, je ne l'ai pas reçu. Un étudiant en M1 qui prend la parole bien souvent à la télé-radio pour s'indigner des blocages n'a pas pu souscrire faute de place. Il a tenté de contacter l'administration pour demander une place supplémentaire. Il n'a reçu aucune réponse. Donc à quoi va ressembler ce débat? Voilà.
Vous voyez le sujet de Mathilde Ibanez.
Les militants pro-Palestine ont obtenu gain de cause. Un town hall va être organisé par Sciences Po, c'est-à-dire un débat, sur le modèle des universités américaines.
L'administration s'est soumise aux militants pro-palestiniens et pas juste pro-palestiniens, on le répète à chaque fois, ce sont également pour certains d'entre eux des militants pro-Hamas, après qu'ils aient bloqué illégalement Sciences Po, après qu'ils aient occupé illégalement Sciences Po, après qu'ils aient eu des slogans qui étaient des slogans antisémites, antisionistes, pro-Hamas, Sciences Po ne les a pas sanctionnés. Et par contre, Sciences Po leur a offert ce town hall qui faisait partie de leur demande.
L'Institut a décidé de mettre en place des règles pour éviter des tensions ou des violences.
Dans le respect des règles classiques du débat, sans banderoles, drapeaux ou slogans, avec un temps de parole limité pour chaque intervention, en français, avec la possibilité de poser des questions en anglais.
Malgré cela, l'UNI ne participera pas au débat.
On a été invité, mais on ne participera pas sur la scène directement à cette prise de parole, tout simplement pour des questions de risque. Nos militants sont régulièrement menacés, intimidés. Certains ont été pris à partie assez violemment au sein de Sciences Po.
Si la majorité des organisations syndicales de Sciences Po voient l'organisation du débat d'un bon œil, l'UNI de son côté craint qu'un prétendu malentendu provoque de nouveaux blocages dans les jours à venir.
Je trouve extraordinaire qu'il n'y ait aucune conséquence. Madame Retailleau qui a dit n'importe quoi, la direction qui a dit n'importe quoi. Hier, avant-hier, on l'a souligné ici. Gabriel Attal qui avait dit autorité, etc. Tout ça est à l'eau ce matin.
Mais c'est ça en effet qui est dramatique, c'est la reddition de l'administration du politique. Parce que moi j'ai vu l'évolution de Sciences Po tout au long des années 2010. Il y avait les mêmes étudiants assoiffés de militantisme, de pureté. La seule différence, c'est peut-être qu'ils sont globalement un peu moins construits intellectuellement aujourd'hui. Et ils sont davantage recrutés sur critères de discrimination positive, notamment avec la procédure CEP mise en place par Descoings. Par contre, l'administration de Sciences Po, elle était quand même un peu plus solide à l'époque de Frédéric Mion. Aujourd'hui, c'est un bateau ivre. Vous avez plein de directions successives, vous avez un administrateur provisoire, et surtout, vous n'avez pas de cap. Enfin, au bout d'un moment, est-ce qu'on veut former des élites françaises républicaines ou est-ce qu'on veut former des petits télégraphistes du Hamas? C'est ça la question qu'il faut poser.
Non, mais c'est ce qu'a dit Marine Le Pen. Sciences Po tombera, c'est tout. Comme UCLA tombe, comme d'autres universités peuvent tomber, c'est-à-dire que
ça vous dérange pas d'amalgamer l'ensemble des étudiants de Sciences Po à quelques
mais on parle de la direction.
Non, mais quand vous dites des petits télégraphistes,
est-ce qu'on veut former ce
mais on n'amalgame pas, on souligne. C'est la direction. Monsieur Vichra n'était pas à la hauteur.
Monsieur Basser.
Lundi dernier, il y avait un étudiant de Sciences Po ici, il était remarquable. Et il est
représentatif
d'une majorité de Sciences Po.
Au contraire, non seulement on amalgame. Mais pardonnez-moi, on ne parle que de la direction.
Bah oui.
Très bien. C'est toujours pareil. Moi, je n'accuse jamais les étudiants. Les étudiants, je ne les accuse pas. Ils sont dans leur rôle, les activistes.
Les activistes,
ils sont dans leur rôle. Je les vire. Donc sanctions disciplinaires, je les vire, ils sont virés. Au revoir.
L'histoire de sanctions déjà est extraordinaire.
Alors c'est très très simple. Hein. Tous ceux qui sont en dehors de la règle sont virés. Ça vous va?
Et là, c'est cool.
Et cette histoire de sanctions est quand même dingue. Le vendredi, il y a des sanctions. Le samedi, il n'y a plus de sanctions.
C'est cohérent.
Oui, c'est clair.
Le lundi, il y a le retour des sanctions.
C'est clair.
Tu vires les gens. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Si vous bloquez l'entreprise, vous croyez que le DRH,
je vous dis simplement que, par exemple,
on a des images en direct là
sur une occupation d'usine. Tout le monde veut pas faire comme Monsieur de Messine, comment il s'appelait, de Sertine, dans cette célèbre séquence patronale où c'est Blier, me semble. Tout le monde ne peut pas faire comme ça. Mais des fois, vous êtes obligé de désescalade.
Non, jamais. Baisse. À chaque fois que tu es faible, ça ne marche pas. Baisse. Jamais. Je vous répète. Alors ça, on est à Sciences Po, là, manifestement. Mais il y a également l'ESJ qui est aujourd'hui... L'ESJ, je l'ai dit plusieurs fois, qui est un bastion d'extrême-gauche, l'école supérieure de journalisme.
Elle est quand même brillante.
C'est Notre-Dame-des-Landes.
L'école supérieure de journalisme, tout le monde sait ça dans la profession. Et là, ils ont bloqué... Visiblement, la première chose qu'ils ont dit, pas de médias. Je veux dire
des gens qui veulent être journalistes.
L'ESJ, pas de médias. Non, mais et c'est ces jeunes gens qui vont venir dans la profession. Mais moi, je les connais tous. Je les vois. Ça fait 40 ans que je travaille avec eux. Je sais où ils sont. Mais alors, ça s'est polarisé, accéléré, radicalisé depuis 4-5 ans.
À l'image de la jeunesse.
Les apprentis journalistes sont à gauche, tous.
Mais c'est plus, non, plus que ça.
Mais pas tous.
C'est plus que ça.
Ah, il y en a beaucoup. Bah,
je vais vous raconter une petite anecdote.
C'est pas quand même, on n'a pas quand même un zadiste, là.
Mais il n'est pas de droite. Mais attendez, il n'est pas de droite, Gauthier. Moi, je ne suis pas de droite non plus. Arrêtez, on fait notre métier.
Oui, oui.
On n'est pas des militants. La preuve, c'est que vous me dites sur certains sujets, vous me trouvez là. Et sur d'autres...
Vous m'excuserez, parfois, je suis tombé dans un malentendu en me qualifiant de droite.
Mais vous avez... Eh bien, vous avez tort.
Oui, mais je vous écoute.
En fait, on est anards, souvent, les journalistes, c'est ça? On a l'esprit de contradiction, souvent.
Il peut y avoir des anards de droite.
On a souvent l'esprit de contradiction.
C'est vrai.
Bon, on a une image de Lille ou pas? Pas d'image de Lille. Pas d'image de Lille, pas d'image de Lille. Bon, donc sur ce tonneau.
On va voir comment il se passe, comment les choses. Mais déjà, si tous les étudiants ne peuvent pas y accéder, on ne peut pas présager de l'avoir
organisé, c'est une faillite absolue.
Jordan Deluxe, vous avez rencontré.
Un débat précis et ensuite complaire à cette bande de.
Vous l'avez reçu déjà, Philippe Béziers?
Ah oui. Bah, deux fois.
Bah, deux fois, ouais. Celle-là, c'est bon.
Moi,
je reçois ça
tous les jeudis.
Vous avez beaucoup de courage.
On a des questions intimes, vous qui ne les aimez pas. Ah oui, alors. Pascal, on ne parle que de ça.
Mais d'ailleurs, vous n'avez toujours pas répondu à ma petite invitation, Pascal.
Mais parce que je ne réponds pas aux questions intimes, je les pose.
Ah! C'est une très bonne réponse. Mais je serais ravi de vous avoir à la rentrée.
Mais oui,
si on est bon, si on...
Écoutez, Jean-Marie Le Pen.
Oui.
Parlons de Jean-Marie Le Pen. Vous l'avez reçu et ses célèbres. Jean-Marie Le Pen et ses célèbres voisins, écrivez-vous. Est-ce que ce nom fait encore peur? C'est la question que je me suis d'abord posée quand on m'a proposé d'interviewer Jean-Marie Le Pen pour l'Instant de Luxe. Puis je me suis dit, allez, j'y vais. J'ai toujours été fasciné par les personnages. Mais voilà.
Personnages.
Mais je suis d'accord avec vous.
Jean-Marie Le Pen, c'est une histoire quand même très drôle parce que. Donc on se pose la question, on se dit, est-ce qu'on l'invite? Parce que c'est une vraie question hein, quand même. À l'époque, en plus, c'était il y a quoi, 3-4 ans. Et donc, du coup, mon associé me dit, mais si, on va le faire. Puis voilà, c'est un personnage public. Et puis, derrière Jean-Marie Le Pen, il y a quand même, ça, c'est quand même le symbole d'une personnalité quand même étonnante, quoi. Qui divise, certes, mais qui est étonnante. Et ça qui m'intéressait, essayer d'aller voir s'il y avait des questions auxquelles il n'avait jamais répondu. Alors, on arrive, et c'est à Montretout. Une énorme grille, mais c'est un spectacle. Et puis, donc on avance, une espèce de petite bâtisse, comme un petit manoir. Il y avait son ex-femme qui était dehors avec le chien, donc je la vois passer.
Son ex-femme, c'est Pierrette Le Pen.
Pierrette Le Pen, exactement. Et il me dit, elle est toujours là, quand il va descendre. Donc son assistant ouvre le portail, on rentre à l'intérieur de la maison. Une maison assez terne, avec des vieilles boiseries. Une énorme photo de Jean-Marie Le Pen avec un, comment on appelle ça, vous savez, les pirates. Avec un œil en moins.
Un bandeau. Il avait un bandeau dans les années 70.
Exactement.
J'ai quitté le plateau, ça commence à me faire peur.
Non, mais c'était...
C'est sensible.
Un escalier qui monte tout en bois grinçant. Et on commence à monter, on fait l'émission. Et là, on voit des mitraillettes.
C'est Psychose. C'est Norman Bates.
Il y a la petite musique.
Là, oui, non, mais on voit des mitraillettes, plein de trucs.
Et Anthony Perkins arrive.
Ah oui, c'était un truc de fou. On fait l'interview, très posé, très sympathique du reste. Et puis je lui pose la question de la retraite, il me dit 12 000 euros par mois. Enfin bon, très intéressant évidemment, parce que j'aime bien les questions d'argent. Ça nous permet quand même de savoir.
Ah, ce serait bien que vous receviez Pascal Pro.
Ah oui, oui, il faut absolument que je sache votre retraite, Pascal.
De retraite, je ne suis pas en retraite, pourquoi voulez-vous que je...
Oui, mais vous connaissez le montant qui va arriver.
Je ne m'intéresse pas à l'argent.
En plus, je pense que c'est...
D'accord. Bon, alors, passons. Vous serez mauvais invité pour moi, en effet, j'ai l'impression. Cher Pascal...
J'ai rien, moi.
On arrive... Oui, vous n'avez rien.
Rien.
Et alors, on arrive en haut, et puis on fait l'interview.
C'est vrai.
Et à la fin de l'interview, il m'emmène sur un petit balcon. Il me prend la main, comme ça. Et il me dit, vous voyez, Jordan, regardez, en face, là, j'ai un voisin. Il fait de la télé, il est dans le spectacle du jardin qui s'appelle. Voilà, Jean du jardin. Je dis, ah bon, c'est votre voisin? Oui. Eh bien, vous n'allez pas me croire, Jordan. À chaque fois que je le croise, j'ai l'impression qu'il fait exprès de faire en sorte de ne pas me voir ou de ne pas me rencontrer pour éviter une photo. Je lui dis, ah bon, c'est étonnant. Je lui dis, oui, peut-être. Et puis, il me dit, et regardez là-bas, c'est la voisine. Et elle a mis, il y a 2-3 jours, elle fait de la musique. Elle a mis un énorme transit.
Vous savez qui c'est?
Eh ben oui, un transit, c'est en fait une personne décédée, un squelette, quoi. Et il me dit, mais elle a encore mis une croix aussi il y a 2 jours, je sais pas qui c'est. Je lui dis, mais c'est qui cette voisine, monsieur Le Pen? Il me dit, ben elle fait de la musique, vous savez, les années 80, 90.
Vous savez qui c'est?
Non.
Mylène Farmer, elle habite, elle est voisine.
En face de Jean-Marc. Donc il a à droite
Jean Dujardin. Et vous savez, Jean Dujardin, quelle maison il habite?
Alors c'est l'ancienne maison d'une personnalité, je crois.
De Lino Ventura.
Voilà, c'est ça, exactement.
Je vous propose de voir l'extrait que vous avez, lorsque vous avez interrogé Jean-Marie Le Pen.
Vous la voyez ici, Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal, elle passe de temps en temps.
Bien sûr, quand elle vient voir sa maman, qui habite au-dessus, eh bien, bien sûr, elle vient voir, c'est un plaisir à la voir.
Vous parlez politique avec elle ou pas du tout, monsieur Le Pen?
Bon, écoutez, quand on se voit, on parle d'affaires familiales, d'affaires personnelles, très peu de politique, mais enfin... tous mes enfants sont quand même dans la même orientation, si j'ose dire. Oui. À part peut-être quelques pièces rapportées, une ou deux pièces rapportées, qui ont gardé leurs opinions hostiles, différentes.
Je me demandais quelles étaient les pièces rapportées, parce que si t'es à gauche... dans la famille Le Pen, je me demandais à qui il faisait allusion. Mais c'est intéressant de parler de Le Pen, parce que nous, ce qui nous intéresse journalistiquement, c'est qui a dit les choses, qui s'est trompé, et d'avoir un rapport, entre guillemets, à la vérité. Bon. Moi, j'ai passé plusieurs fois une interview célèbre de Jean-Marie Le Pen avec Pierre-Luc Séguillon. Oui. Il annonce ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas dit des choses horribles à côté de cela dans sa carrière politique, et je pense effectivement à ce qu'il avait pu dire sur le détail, mais personne contestera qu'il fait la bonne analyse en 1991 sur l'islam. Personne ne peut la contester puisqu'il y a juste à l'écouter. Et à l'époque, quand il disait ça, ben forcément, personne ne voulait entendre. Ce qu'on demande à un homme politique, c'est souvent d'être visionnaire. Mmh. C'est de voir les choses et de s'appuyer sur une culture, sur une histoire, pour dire les choses. Donc, bien sûr que ça ennuie beaucoup, en fait.
Alors, c'est intéressant votre analyse, parce qu'il y a aussi des personnalités qui se sont fait avoir avec ça, et je le raconte dans le livre, notamment un monsieur qui s'appelle Philippe Chevalier, que j'avais reçu, et ça, c'est un de mes regrets. J'avais vu sur une petite interview sur YouTube qu'en effet, il était pour Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Je lui pose
Philippe Chevalier de Régis Lasfalaise.
Exactement.
Et bien sûr, on l'a reçu ici, et ça lui a posé quelques ennuis à
Exactement.
Philippe.
Exactement. Derrière.
Donc, il a fait un peu machine arrière.
Voilà.
Ah oui,
Jean Roucas, par exemple, refuse aujourd'hui de faire une télévision, parce que Jean Roucas, le problème, c'est qu'il s'est mis un peu un moment avec les...
Oui, mais lui, il était militant, il était même militant, candidat. Voilà. C'est encore autre chose, c'était plus sympathisant, il était candidat.
De la personne. Exactement. Oui,
il était candidat aussi.
Et c'est des gens, peut-être qu'aujourd'hui, ça passerait mieux.
Oui. Bah, mais je suis, oui, quoi, dans le milieu culturel, non. Après, dans le milieu culturel, si vous êtes à droite de Jean-Luc Mélenchon, déjà, c'est compliqué.
Mais il y a plein de gens de droite dans le milieu culturel, mais qui se cachent.
Il y en a beaucoup qui le disent.
Bien sûr, mais vous avez parfaitement raison, mais officiellement, il faut
vous
mieux
Vous savez,
être,
dans les métiers, parce que...
Bon, alors on va voir un autre extrait, et parce que vous arrivez à faire dire aux uns et aux autres des choses parfois intimes.
Ben oui, c'est pour ça que je veux que vous veniez, Pascal.
Mais moi, j'ai pas envie de dire des choses intimes du tout. Qu'est-ce que vous... Voilà. Donc, il y a effectivement cet extrait où on vous voit avec Francky Vincent et beaucoup d'autres personnalités. Écoutez, parce que c'est vraiment très rigolo comme vous interrogez les gens.
C'est une blague.
Ben non, elle va...
On passe de Ara Nakamura à Edith Piaf par rapport à un tel événement. Donc à ce moment-là, Francky Vincent chantant « Vas-y, les Jeux Olympiques, c'est bon », ça le ferait alors.
Je ne parle jamais de ma femme, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je suis homosexuel.
Eh ben, c'est pas grave.
Voilà, et c'est pas grave du tout, c'est pas une tare.
Mais attendez, je comprends pas, vous m'avez dit que vous aviez une femme tout à l'heure.
mais je vous ai dit tout à l'heure que je ne parlerai jamais de ma vie privée. Voilà.
Ah non, mais vous êtes vraiment avec un homme?
Ouais, je suis vraiment avec un homme. Mais bon, je respecte lui aussi sa vie privée. On est en trouble.
Vous avez dit que vous étiez contre le mariage gay. Si votre fils venait vous voir en vous disant qu'il aime un homme et qu'il aimerait se marier dans votre commune, dans votre ville, vous lui répondriez quoi à votre fils?
Que je l'aime. Et qui fait ce qu'il veut.
Elle me fait froid dans le dos, carrément. Elle me fait froid dans le dos et on lui fait un tapis rouge pour arriver au pouvoir, pour le moment.
Vous trouvez ça inquiétant, Yolande Moreau?
Ah ben bien sûr, c'est inquiétant. C'est affligeant. Your love is real to me.
Non mais c'est vrai que vous avez un talent, moi je suis vraiment très étonné, les gens vous disent des choses qu'ils ne diraient pas ailleurs, notamment sur l'argent, parce qu'à chaque fois, vous êtes obsédé par l'argent.
Non, je sais, parce qu'en fait l'argent a vite été une solution pour moi quand j'étais petit, parce que si vous voulez, quand je me faisais harceler, je donnais de l'argent pour être tranquille, l'argent que je trouvais dans le portefeuille de ma mère.
Ah, vous voulez votre mère?
C'est-à-dire que je lui faisais de la monnaie, Et en fait, je faisais une fausse monnaie, quoi. C'était plus intéressant pour moi que pour elle.
Belle volée.
Ouais, si vous voulez. Mais c'est dur de dire ça quand même. Donc peut-être que j'ai pas encore.
Et vous avez été. Alors, vous en parlez d'ailleurs de cette, ce harcèlement.
Oui.
Et pourquoi vous vous faites harceler
Certainement parce que je suis assez peut-être un peu efféminé. Il y a ce côté aussi, c'est vrai, j'aimais bien m'habiller bien. Donc ça dérègle toujours des petits costumes. C'était mon truc et c'était la mode des baggies. Donc j'étais en total. Voilà, ça n'avait rien à voir.
Ça, c'est en quelle année tout ça
C'était. Je ne saurais pas vous dire l'année exactement, je suis très mauvais au niveau des dates. Mais en tout cas, j'étais au lycée.
Ça, c'est sûr. Et vous étiez à Rennes
Oui, j'étais à Rennes, ouais, dans un lycée.
Dans le privé, dans le public?
Alors, privé. Et en plus, je refusais d'aller dans le public parce que j'ai dit, mais non, j'ai pas envie d'aller dans le public, je préfère aller dans le privé. Et ça s'est révélé être catastrophique. Et en fait, donc voilà des petites choses qui font qu'on est un petit peu différent. Et puis après, bah, c'est monté, quoi. C'est-à-dire, je donnais un dessert pour pouvoir manger avec quelqu'un parce que du coup, je me sentais très seul. Et puis, des scènes d'humiliation terribles. Je me souviens notamment, j'avais une technique, c'est-à-dire, comme personne ne voulait me parler à l'école, lors de la récréation, je prenais mon portable et je faisais croire que j'étais au téléphone avec quelqu'un. Sauf que bien un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit tiens, bah, je vais l'appeler. Il a eu un doute et il m'a appelé au même moment. Le téléphone a sonné. Ils ont tous vu que j'étais pas au téléphone. Et alors là, c'était l'horreur. Là, je me suis dit c'est vraiment la fin, quoi. Ça va être terrible, quoi. Bon. Et ça s'est accentué d'une manière très très forte.
Donc ça, c'est évidemment Rennes. Et puis un jour, vous venez à Paris. Comme tous les gens, il y a les gens qui viennent à Paris souvent et qui veulent faire ce métier, on monte à Paris, comme on dit. Il y a un côté Rastignac.
Exactement.
Voilà. Et c'est vrai que tous ces métiers-là de télévision se font à Paris. Alors bien sûr, il y a des professionnels qui doivent nous écouter en ce moment, qui sont en région et qui font formidablement bien leur métier. Mais c'est vrai que c'est à Paris que beaucoup de choses sont concentrées.
C'est à Paris que tout se fait. C'est à Paris qu'il y a les studios. Et l'histoire se fait en deux minutes, en fait. Donc il y a cette période d'harcèlement, un moment où je suis pas très loin de tout arrêter, c'est-à-dire mettre fin à mes jours. J'y pense, quoi. Je le dis dans le livre. Et c'est une spirale infernale, hein, le harcèlement, parce que vous sentez une espèce de halo de lumière qui vous envahit, qui vous dit mais vas-y, quoi. Fous-toi en l'air, tu seras tranquille, quoi. C'est vraiment, et c'est pour ça que j'aime bien le dire, je veux le répéter, quand il y a des enfants qui mettent fin à leur jour, ce sont des enfants courageux, parce que c'est, faut avoir du courage pour faire ça. Et il y a ce halo-là, et au même moment, je vois sur Internet une émission qui s'appelle C'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy, il fallait gagner un téléphone portable. Et je me dis, je vais l'appeler juste pour passer à la télé, à la radio, je me suis dit, ça va être bien. J'appelle, et je me retrouve avec Laurent Baffy, il fallait chanter pendant une demi-heure une chanson. À la fin de l'émission, Baffy me fait, Jordan, vous avez perdu le portable. J'étais hystérique. Je dis, oh non, c'est pas vrai, j'ai perdu le portable. Pour moi, toutes mes 100 chances d'aller faire de la télé, c'était fini. Et là, je lui dis, mais écoutez, monsieur Baffy, est-ce que je pourrais vous proposer de venir faire une petite chronique à l'émission? Il me dit, ah bon, vous êtes sûr, vous voulez le faire? Je dis, écoutez, soit vous me dites oui, soit je viens quand même. Et il me fait, bah, si t'as des couilles, Jordan, viens. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Je suis venu. Et je me suis retrouvé donc devant Europe 1, c'était énorme pour moi, hein, devant cette fameuse rue mythique. Il me voit arriver, j'arrive, et donc du coup, je lui dis, bah, bonjour monsieur Baffy, vous allez bien? Et puis on regarde, il me fait, mais vous êtes qui monsieur? Je dis, bah, je suis Jordan, c'est moi qui vous ai appelé la semaine dernière. Et là, il me fait, écoutez, il y a 15 000 personnes qui m'appellent, ça ne servait à rien de venir. Là, tout s'effondre dans ma tête. Et un mec du public me dit, venez Jordan, allez, mais il est comme ça notre Lolo, mais c'est un gentil au fond. Et j'ai préparé une petite chronique sur Julie Leclerc. Voilà, Julie de Repin. Et on fait l'émission, et en pleine émission, tout s'arrête, et il fait « Ah, au fait, j'ai un petit enculé qui m'a appelé la semaine dernière. » Je me dis « C'est moi le petit enculé. » Je dis « C'est moi, c'est de moi dont il parle. » Et là, il vient me chercher, il me met au milieu de la table, et il y a Geneviève de Fontenay, les frères Bogdanov, je fais ma petite chronique, et à la fin, je vais le voir, je lui dis « Monsieur Baffy, est-ce que ça vous a plu ?» Il me dit « C'était nul. » J'ai écouté « C'est pas grave, j'ai passé un moment extraordinaire, j'ai fait de la radio. » Et il me dit « Franchement, c'était bien. Je déconne. T'as peut-être quelque chose à faire dans la télé. » Et il y a la pute au chapeau qui veut te parler. Je la pute au chapeau. C'est Baffy, hein. Pascal, c'est Baffy, je sors les mots comme il les sort. C'était Geneviève de Fontenay. Et Geneviève de Fontenay m'a invité après à boire un petit verre. Et elle m'a donné son numéro de téléphone. Tout a commencé comme ça. Et j'ai compris la télé avec mes premiers stages. Parce qu'un jour, je vais arriver en stage à Mistral Productions, donc époque Guilux, c'est-à-dire avec l'ancien associé de Guilux. Et le mec me dit, bon, bonjour monsieur.
Vous n'avez pas connu Guilux.
Ouais, c'est l'ancienne époque, évidemment. Mais c'était pour les 50 ans d'Interville. Et je vais comprendre tout le stratagème de la télé comme ça. On fait l'émission, on fait le rendez-vous, et là, je vois des énormes mascottes. Des petites mascottes à droite, à gauche. Et j'ai dit au mec, bah, écoutez, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un truc pour les 50 ans, c'était faire porter un costume aux invités. Et derrière ça, je voulais récupérer la liste des numéros de téléphone de tout France Télévisions. Arrive le premier invité, c'était Thierry Roland. C'est très court, hein, Pascal, je finis en deux secondes. Thierry Roland, j'arrive chez lui, et puis j'arrive à une énorme mascotte, et je fais à Monsieur Roland, « Monsieur Roland, voici la mascotte, est-ce que vous pouvez la mettre ?» Il me dit non. Et je me dis, oh, mais ils vont tous me faire le même coup. Et là, je lui dis, mais c'est vraiment dommage, parce que Monsieur Foucault l'a mis, la mascotte. Et là, Roland fait, il l'a fait, Foucault. J'ai dit oui. Et donc, je le fais.
Bon, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans la télévision qui ont un peu votre personnalité, en tout cas un trait de votre personnalité, qui est le culot. Et puis cette volonté d'y arriver, et c'est comme ça que manifestement vous êtes arrivé au devant de la scène. Je voulais juste qu'on voit un petit extrait avec Frédéric Mitterrand, parce que c'est très émouvant, vraiment. Et c'est vrai qu'il est souvent venu sur notre plateau et on avait beaucoup de tendresse pour Frédéric Mitterrand.
La chose que vous aimeriez qu'on retienne de vous si demain vous disparaissiez, Frédéric Mitterrand.
Il était sympa.
Ouais, c'est vrai. C'est ce petit truc que vous voulez qu'on retienne?
Oui, parce que je pense que c'est vrai.
Et toute la carrière, tout ce qui s'est passé.
Il ne reste rien après. Il ne reste rien. Il reste des moments dans Madame Butterfly, qui est un beau film. Il reste quelques moments d'émissions de télévision. Il reste quelques textes. Mais tout ça, qu'est-ce que c'est comparé à Camus, à...
L'épitaphe ?
Les écrivains. L'épitaphe. Non, rien, je ne mettrai rien.
Moi, j'aime bien cet esprit-là, de dire « il reste rien, on ne fait rien, ce n'est que de la télévision, il y a des gens qui laisseront quelque chose ». On a parlé de Molière tout à l'heure, des grands artistes, pourquoi pas, des grands écrivains. Mais qu'est-ce qui restera de nous, nos enfants ?
Oui, mais je trouve que c'est une forme de posture, ça aussi.
Ah non ?
Non. Si.
Ah non, non, non,
non. Non, mais je ne dis pas qu'il est pas...
Ah non.
Décidément, je me fais mal comprendre.
Bah, ouais, ouais, non, ouais, ouais, ouais. C'est clair, vous dites c'est de la posture. Moi, non, je ne crois pas, je crois qu'il le pense.
Un petit peu une forme de... À la fin, de dire « il reste rien ».
Mais oui, il ne reste rien. Il ne reste rien. Alors, il reste nos enfants, j'ai dit.
Oui, c'est important, mais il reste
Qu'est-ce qui restera de nos vies, nos enfants ?
Parce que si on vit avec une telle morosité...
Mais c'est pas morose du tout.
Ah si.
Mais pas du tout, au contraire. Ah, si. Mais Pascal... c'est d'une légèreté, d'une dérision, et de savoir, de savoir un peu ce que...
Non, mais...
Quelle est ta place ? Il y a des gens qui pensent, par exemple, si tu es Emmanuel Macron, tu peux dire... Oui, il restera quelque chose de moi. J'ai voulu faire quelque chose, un sillon, etc. Mais qu'est-ce qui restera de vous ?
Concernant, en tout cas.
Sauf pour votre famille.
Mais non, non, mais Pascal.
C'est pas désagréable ce que je dis.
Non, mais c'est pas du tout.
Dans l'histoire de l'humanité.
Non, mais on n'est pas obligé de se prendre au sérieux pour considérer que dire qu'il n'y a rien comme ça.
François Mitterrand, Frédéric Mitterrand, dans le moment où il évoque cette question. Question-là, il est totalement dans une vérité absolue.
Bien sûr, oui.
Voilà. Oui. Il n'y a pas de posture.
C'est 2000 ans de chrétienne, tu es plus fier.
Elle est dans le fait, Sandra, de dire qu'il ne reste rien.
Non, mais bon, c'est faux. Mais, oui, mais vous n'êtes pas dans la légèreté. Vous n'êtes pas dans la dérision.
La preuve,
pas
avec chose. Vous tout le temps, regardez, je suis étincelant dans cette émission en permanence.
Mais vous deviez vous marier, hein, tous les deux.
Il va vous dire qu'il fait l'ambiance. C'est le début de la fin.
Pascal, arrêtez.
Il y en a un qui pense ça.
Ah oui, il y en a un qui pense ça.
Il y en a un qui pense ça.
Salut. Bon, Sandra, pardonnez-nous, Sandra.
Là, c'est le début de la pente. Là.
Sandra. Est-ce que. Voilà, Sandra Chimbo.
Emmanuel Macron reçoit les représentants du monde agricole ce matin. Les syndicats, la coopération agricole et plusieurs interprofessions sont conviés. Au centre des discussions, les perspectives du secteur. Tous souhaitent notamment de meilleurs revenus. L'exécutif veut acter la fin des manifestations de cet hiver. L'accord SNCF sur les fins de carrière n'est pas satisfaisant selon Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie a convoqué le PDG de la SNCF pour qu'il rende des comptes. Le 22 avril dernier, les quatre syndicats représentatifs ont signé avec la direction un accord sur les fins de carrière des cheminots. Il donne un sentiment de deux poids, deux mesures, selon le ministre. Et puis ces images impressionnantes dans le sud de la Chine, un tronçon d'une autoroute dans la province de Guangdong s'est effondré ce jeudi. Bilan au moins 48 morts, 20 véhicules ont été piégés. L'accident s'est produit sous l'impact de fortes pluies, provoquant des inondations et des glissements de terrain.
Nous étions ce matin avec Jordan Deluxe. À quoi tu sers ? Confidence sans détour. Continuez ces rêves, dites-vous. Cela ne m'empêche pas de vouloir les continuer. Si demain je rencontrais un bon génie qui me propose de faire 3 vœux, je demanderais ceci. Poursuivre ma carrière à la télévision. Refaire un peu de radio. Animer un jeu télévisé. C'est drôle parce que dans ce bon génie, il n'y a pas de choses plus personnelles. Par exemple, rencontrer l'amour. Je ne sais pas si c'est vrai ou
si,
pas.
Si, 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 j'ai quelqu'un.
voilà, donc, mais c'est pour vous, c'est la vie professionnelle est plus importante peut-être.
J'ai tout misé là-dessus, Pascal, ouais. Ouais, c'est tellement. Sincèrement, je suis très ému d'être là. C'est énorme pour moi. Hein. Je ne me rends même pas compte. Non, je vous jure, mais Pascal, vous ne vous rendez pas compte, je crois. Non, non, mais c'est. Si vous rendez compte, si on m'avait dit un jour, tu vas
faire. Arrête.
Je vous jure, mais je ne vous mens pas. C'est comme quand j'ai fait Cyril.
Arrêtez. On se le dit tous les matins.
Arrêtez.
Mais parce que.
Ne soyons pas.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais la vie personnelle. Mais moi, ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes authentique. Il y a peu de gens qui disent j'ai tout misé sur la vie professionnelle. Au contraire, certaines gens que je connais dans ce milieu, il y a une forme de posture pour le coup chic à dire j'ai jamais vraiment rien voulu, tout est arrivé un peu par hasard, on m'a beaucoup proposé de choses, moi-même j'ai pas vraiment choisi. J'entends cette petite musique qui m'amuse toujours parce qu'en fait ils avaient l'ambition chevillée au corps, ils pensaient qu'à ça, c'était des obsessionnels de la réussite. Mais bon, quand ils sont au sommet, voilà, ils ont le sentiment qu'on les a choisis. Comment ?
Ça fait bien de dire.
Voilà. Donc j'aime bien le côté que vous avez de dire, ben voilà, j'ai tout mis. Alors, j'ai pas de conseils à vous donner, mais ne misez pas tout sur votre vie professionnelle.
Bien sûr, ça pose des problèmes aussi dans la vie privée, hein, parce qu'on se coupe de tout le monde. Ça, voilà. Mais
la vie privée.
Mais ça m'a tellement fait du bien, en fait, si vous voulez, je suis tellement heureux et je me dis à chaque moment que tout va s'arrêter. Hein, pour moi,
arrêtez
à chaque
ça,
fois.
Arrêtez ça,
je vous jure, c'est vrai. Je parle
on dit
sincère.
Pas ça.
Mais non, mais à chaque fois, je me dis, ça s'arrête demain, mais au moins, j'aurais vécu mon rêve.
Je vais vous dire, dans nos métiers, de toute façon, c'est simple, c'est jamais vous qui décidez. La télé, soit tu meurs, soit tu es viré. Mais c'est pas jamais toi qui décide. Mais non, mais c'est vrai.
Je vais faire une dépression.
Mais c'est vrai. Mais c'est vrai.
C'est plutôt ça. Partir à la retraite.
C'est vrai. Mais ce que je vous dis, c'est vrai dans quelques domaines. C'est-à-dire que soit tu meurs, soit tu es viré. Mais c'est jamais toi qui décide. Il y avait un présentateur qui avait
donc
dit j'ai décidé.
Les gens s'arrêtent jamais. D'eux-mêmes.
Vous n'avez aucun niveau. Ils se sont arrêtés d'eux-mêmes dans ce métier.
On n'en connaît pas.
Pas encore.
Ah ben non, c'est mon livre.
Zemmour, c'est mon
livre. On n'en connaît pas.
C'est comme ça. C'est la vie. Pourquoi ? Parce que Ardisson, il dit un truc qui est rigolo. Il dit j'ai essayé toutes les drogues. L'amour, le sexe, la dope, etc. La télé, c'est ce qu'il y a de.
Très addictif.
C'est lui, visiblement.
Il est devenu un peu méchant, c'est vrai.
Il est un peu méchant. Ah oui ?
Ouais, moi, apparemment, il ne m'aime pas. Enfin, il a confié ça à une de vos collègues, d'ailleurs.
Il était sur le plateau là.
Oui, mais si vous me permettez, voilà. Bon, moi, il m'aime bien, je ne dis rien, mais bon. Allez, Laurent Prat.
C'est dommage.
Laurent Prat était à la réalisation. Ludovic Liebard était à la vision. Jeff Couvelard était à la vision. Et au son, pardon. Marine Lançon était là. Pauline Trefzer était également là, avec nous. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini, à qui vous rendez hommage dans une seconde, parce qu'il vous a vraiment aidé.
Ah oui, c'est lui qui m'a lancé, ça c'est clair.
Et
avec Sylvain.
Ouais. Et ben, faut le dire.
Oui, c'est un grand monsieur et c'est un très bon intervieweur.
Et ben, on salue l'ami Jean-Marc et on lui passe le relais. Merci Philippe, vous avez vraiment été étincelant aujourd'hui. C'est le mot.
Vous le reconnaissez.
C'est le mot qui convient. Non. C'est terminé. À ce soir.
Vous avez compris que je faisais un peu dérision, j'espère.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.